Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du SAV de la F1 qui commence un chouïa en retard. Un chouïa, pas grand chose, mais bon, c'est bon, on est là, hein. Tous les, j'ai envie de dire tous les cinq quand même, parce que Dino est là. Bonsoir Dino.
Bonsoir Cédric. Bonsoir chers auditeurs.
Jennifer est là.
Salut, salut tout le monde.
Jackie Ratzenberger est là.
Bonsoir à tous.
Et il est là, même si vous n'allez pas l'entendre, mais comme on dit, il est à la technique et c'est comme, faut quand même que vous l'applaudissiez parce que c'est grâce à lui quand même que vous pouvez nous entendre en live, hein. C'est Gus qui a la réalisation. Donc, voilà.
Bravo Gus. Merci Gus.
Alors, soyez bien d'accord, réalisation.
Je sais pas si on m'entend.
Oui,
si, si. Bon, voilà.
Ouf, que ce fut compliqué. Alors, Oasis Dino n'est pas au fond d'une... Bah si, en fait, t'es vraiment au fond d'une cave, techniquement.
Ah, oui, ouais.
Complètement.
Il est vraiment au fond d'une cave.
C'est la Picardie, hein, il fait, c'est humide là-bas. Hein.
Oui.
Je vais essayer, parce que, bon, voilà, dans la Picardie, tous les éléments électroniques dysfonctionnent.
Simplement, oui.
Je peux rien dire, je suis Picard, maintenant. Je vais mettre une photo de ma cave sur Twitter. Follow me.
Et donc, on va revenir sur ce Grand Prix des États-Unis à Austin. Comme d'habitude, qu'avez-vous pensé de ce Grand Prix?
Ben, moi, j'ai trouvé ça assez intéressant, malgré tout. On n'avait pas de doute pour Vettel, mais le reste était sympa. Sympa à suivre.
Mm-hmm. Ouais, ça va, un bon petit Grand Prix. Il y a plus intéressant comme Grand Prix, mais il était assez sympa.
Ouais, c'est dommage, parce que c'est surtout que voilà, il n'y a pas eu, enfin, ils ont tous fait un arrêt, enfin quasiment tous fait un arrêt. Il n'y avait pas, oui, voilà, trop de,
alors, il y a eu un moment de
choix
statistiques,
de choix stratégiques.
On a eu un moment de doute quand même à la fin.
Oui, c'est vrai, oui.
On a eu un peu certains qui se mettaient en deux arrêts. On s'est demandé s'il n'y aurait pas deux arrêts. Et au final, non.
Mm. Vous le savez, le SAV de la F1, ça commence aussi par cette fameuse rubrique. Alors, c'est drôle parce qu'on était le 17 novembre, et le 17 novembre, c'était la date du fameux France-Bulgarie. Mais ça ne sera pas ça, parce que sinon je vous en parlerai pas. Ça sera autre chose.
Le service après-vente de la F1 vous présente l'éphéméride de Shinji. Une rubrique si drôle qu'elle fait mérite.
Le chiffre de la semaine, c'est un chiffre à virgule, c'est un petit chiffre, enfin, c'est le chiffre
193,3.
Et on n'oublie pas de fermer les fenêtres de chat.
Oh, parce que les gens sont tellement mauvais sur le chat.
Alors je ferme. Par contre, on a le droit d'ouvrir Internet. Non, je plaisante.
Non.
Donc, comme d'habitude, la première question, ça n'a aucun rapport avec la F1, évidemment.
Non, ça n'a pas de rapport.
T'as hésité quand même.
Parce que j'ai quand même essayé de réfléchir quand tu as posé la question, mais non. Okay.
Avec le sport, avec un sport en particulier?
Non.
Avec un événement politique?
Il y a un peu de politique derrière, quand même.
C'est en France?
Non. Mais c'est pas quelque chose de politique, hein. C'est juste que dedans, voilà, on peut y mettre de la politique.
Hein, oui, je vois bien.
Voilà. Alors, ce n'est pas un nombre de jours, ce n'est pas un objet manufacturé, en effet. Enfin, ça dépend. Oui, si, d'une certaine façon. C'est pas un truc que vous avez chez vous, quoi.
C'est une mesure?
Oui.
En centimètres ou?
Pas en centimètres.
En mètres?
Pas en mètres.
En kilomètres.
En kilomètres.
C'est la distance entre deux points.
Oui.
Le point A et le point B?
Oui.
Tu t'avances,
ou
là, quand même.
C, Dino.
Ben c'est bon, j'ai trouvé. Je vais te dire oui, c'est la distance entre le point A et le point B. Il y a un mec qui a fait une étude sérieuse, il a cherché la distance entre le point A et le point B, et il a trouvé 193,3.
Ce n'est pas le nombre de pièces sabotées sur la Williams de Maldonado.
Ah, c'est le nombre de pièces sur celle de Weber, alors.
Non, c'est plus.
Non, c'est le nombre de fois, ça, qu'on a saboté la voiture de Weber.
Non, c'est le nombre de pièces qui restent de la voiture de Maldonado après qu'il ait roulé avec.
Il en reste trop, là.
Donc 193,3 kilomètres.
Donc c'est bien d'un point A à un point B.
Oui.
C'est un trajet qui a été fait.
Oui.
Qu'est-ce que ça dit, Dino?
C'est un trajet historique, enfin qui a marqué l'histoire.
Oui.
C'est à pied.
C'est pas à pied.
On peut le faire en voiture, tout le monde.
En voiture. Non.
Ah, en
voiture, ça va être
pas la ligne Rouen-Dieppe.
C'est pas en train.
En avion, enfin, en aérostat ou un truc comme ça?
C'est pas en avion.
En ballon.
C'est pas en ballon.
Ah, pour, c'est un vrai moyen de transport.
C'est en bateau.
Ah. En bateau.
Oui.
C'est le premier ou c'est juste un.
Ah bah la première fois c'était 193,3 et depuis c'est toujours 193,3.
C'est une course?
Oui, comme c'est une mesure.
Non, c'est pas une course.
Et encore aujourd'hui c'est 193,3.
Oui. C'est-à-dire que les points A et les points et le point B on les a pas changés non plus.
Ah. C'est vraiment une course de bateau.
C'est pas une course.
Enfin
c'est un trajet en bateau.
Trajet de bateau.
Oui.
Une croisière.
Pas vraiment, vu les bateaux qui passent dessus, mais
C'est quelle taille de bateau? C'est des voiliers? C'est des...
Il y a de tout.
Ah, c'est le canal de Panama?
Non.
C'est le canal de Suez.
Ah, et Jackie, il est...
Ah, putain.
Ouais, merci.
Il t'a grillé. Oui, puisqu'en effet, le 17 novembre, 1869 était inauguré le canal de Suez, qui est, va dire, pour un canal relativement récent, le plus grand canal au monde. Parce qu'il y en a un qui est beaucoup plus grand, mais c'est le grand canal de Chine, et lui, il a un paquet d'années. Donc, le canal de Suez, alors, l'idée même de faire un canal à cet endroit-là est extrêmement vieille, puisque on a découvert l'existence d'un canal, alors qu'il n'était pas, dans le sens mer rouge Méditerranée, mais entre la mer rouge et le Nil. Donc déjà à l'époque, ils avaient l'idée de faire un passage maritime il y a plus de 3800 ans. Et c'est un canal qui aurait existé jusqu'au 8e siècle de notre ère. Mais le canal moderne, bien qu'il y ait eu des idées, par exemple au 15e siècle, les Vénitiens, parce qu'ils voulaient faire la nique aux Portugais, parce que les Portugais avaient découvert le Cap de Bonne-Espérance.
Non, c'est les Chinois qui veulent faire la nique aux Portugais.
Oui, ce soir. Mais il y a 400 ans, c'était les Vénitiens qui voulaient faire la nique aux Portugais. Parce que, évidemment, eux, ils payaient des taxes, puisqu'ils amenaient tout ce qui était épices d'Asie par la terre. Et donc, au 18e siècle, ce sont les Français qui vont se dire, ouais, allez, on va faire un canal pour relier la Méditerranée à la mer Rouge, avec le fameux ingénieur Ferdinand de Lesseps. Hein, qui conçoit ce canal sans écluse d'ailleurs, qui est articulé autour de trois grands lacs en fait, ce qui n'a pas été sans souci parce que vous savez que l'Égypte historiquement s'est associée notamment à l'Empire britannique, qu'Empire britannique et la France au 19e siècle, c'est le colonialisme, c'est pas top. Par exemple la Grande-Bretagne, ils voulaient faire une ligne de chemin de fer juste à côté pour faire concurrence au canal.
J'adore la phrase du jour. Le colonialisme, c'est pas top.
Oui, c'est vrai. Et puis, il a fallu 10 ans pour construire le canal. Alors, on estime qu'il y a eu 1,5 million d'Égyptiens qui participaient à la construction du canal et que plus de 125 000 y moururent, notamment du choléra. Et à la fin des travaux, la propriété du canal était moite-moite. Les Égyptiens, ils avaient 44% du canal et le reste, c'était les Français. Via la fameuse compagnie universelle. Ouais, parce qu'elle était universelle, la compagnie du canal maritime de Suez.
Tout l'univers est français, il faut le savoir.
Bien sûr, bah oui, surtout au 19e siècle. Et donc, le premier bateau passe en février 1867, mais il n'est inauguré, donc, que le 17 novembre 1869. Alors après, les Égyptiens ont revendu leur part au Royaume-Uni, ce qui faisait que le canal était, donc, à la fois pour les Britanniques et pour nous. Et ça, ça a été comme ça jusqu'en 1956, la crise de Suez, où Nasser dit « Le canal, il est à nous. » Et les Français et les Anglais, bah, allez vous faire foutre.
Parce que, rappelons-le, le colonialisme...
C'est mal.
C'est pas top.
Donc, grosse tension internationale. Les Français et les Anglais ont même envoyé des troupes. Hein. Il y a eu une vraie affaire, une tension internationale du canal de Suez. Mais au final, bah, le canal est propriété des Égyptiens, nationalisé. Et bon bah les Français et les Britanniques ils n'avaient plus que leurs yeux pour pleurer hein.
Alors il y a des scandales financiers également autour du canal de Suez.
Alors je sais qu'il y en a eu pour le Panama, mais peut-être qu'il y en a eu pour le canal de Suez.
C'est ma soirée ce soir, je comprends Panama et Suez. Moralement, je sais que j'ai donné la bonne réponse. Après, je te l'accorde.
Il n'y a pas de morale. Hein.
Et alors il faut noter que le canal a été fermé pendant 8 ans. Suite à la guerre des six jours en juin 67, il a été fermé de 67 à 75. Et comme il était bloqué, il y a 14 navires de commerce qui ne pouvaient plus sortir du canal et qui sont restés bloqués pendant 3016 jours sur le lac Amer, qui est donc un des trois lacs qui composent le canal pendant 8 ans. Oh. Alors aujourd'hui, vous voyez,
il y a pire. Apparemment, il y a mieux, mais il y a pire.
J'espère qu'ils pouvaient au moins descendre des bateaux.
Ah non, seulement pour aller nager avec les dauphins. Il n'y avait pas de dauphin.
Sur un lac.
C'est un lac.
un lac relié à la mer par le canal de Suez. Attention, il suffit qu'un dauphin soit un peu intelligent.
À noter que aujourd'hui, depuis la fin des années 2000, certains bateaux hésitent un peu à passer par le canal, parce que alors c'est pas tant le canal qui pose problème, c'est pas tant la mer Rouge qui pose problème, c'est plutôt les côtes de la Somalie. Hein, vous savez, la piraterie et tout ça. Donc il y en a certains qui disent, oui, après tout, le Cap de Bonne-Espérance, c'est plus long, mais au moins c'est un peu plus sûr. Mais malgré tout, ils continuent à y passer. Faut savoir que le canal est quand même très important pour l'Égypte, puisque c'est la troisième source de devises du pays, 5 milliards de dollars par an, et on estime que un blocage du canal, les pertes seraient d'environ 7 millions de dollars par jour. Donc d'un point de vue technique, hein, c'est un canal qui n'a pas d'écluse.
Donc au bout de 2 jours, c'est le salaire de Zlatan Ibrahimovic.
Exactement, voilà. Le canal ne comporte pas d'écluse, il est quasiment...
Trois pour Alonso.
Oui, donc articulé autour de 3 plans d'eau. Sa largeur est de 345 mètres, hein, avec une largeur minimale de 280 mètres. Et il est relativement, entre guillemets, peu profond, puisqu'il ne fait que 24 mètres de profondeur.
C'est du beau canal quand même. Hein.
C'est du beau canal, mais il faut savoir que comme 24 mètres, donc les navires, le tirant d'eau maximum, c'est 20 mètres 12. Les super tankers, vous savez, les gros trucs, ils vident une partie de leur pétrole en entrant sur le canal et ils le rechargent en sortant pendant que eux traversent le canal, le pétrole, ils passent par oléoduc. Là, tu dis, mais pourquoi ils utilisent pas tout simplement 2 bateaux? Non, voilà, c'est...
Parce qu'ils sont cons.
Voilà. Il y a 20 000 navires qui passent le canal chaque année et ça représente 14% du transport mondial de marchandises. Et le passage prend de 11 à 16 heures. Alors on peut aussi noter que d'un point de vue environnemental, la construction du canal, c'est le premier ouvrage à couper physiquement l'Afrique et l'Asie, notamment pour toutes les espèces non volantes. Ce qui est arrivé plus tard avec le Panama. Le Panama a coupé en deux, puisque plein d'animaux non volants, bien évidemment, ne peuvent plus passer à travers le canal, sauf s'ils savent nager.
Il n'y a pas de bac, comme en Normandie.
Non, je sais pas. Est-ce qu'il y a des passages à grenouilles, des bacs pour les cerfs? On ne sait pas.
Un tunnel.
Oui. Ça a même causé des problèmes d'un point de vue biologique, et notamment d'un point de vue des microbes et des bactéries, parce que les eaux de la Méditerranée et de la mer Rouge n'avaient jamais été en contact. Et forcément, avec le canal, bah, il y a des microbes de chaque mer qui se retrouvent dans l'autre, et parfois de façon très invasive. Et alors, faut savoir, donc, le canal, qui permet donc d'éviter le passage au sud de l'Afrique, a décuplé le trafic de la Méditerranée, puisque la Méditerranée, ça ne représente que moins de 1% de tous les océans, mais c'est 30% du volume de trafic mondial.
On sait combien coûte le passage?
Non, ça n'est pas précisé. Je ne l'ai pas trouvé. Je sais pas.
Regarde la SANEF. C'est eux qui ont les droits. Ils ont un gros péage.
Par contre, je peux vous dire que ça marche par convoi, en fait. C'est-à-dire que il y a genre 5-6 bateaux à la file qui vont faire le passage jusqu'à un premier lac. C'est pas un par un, en fait. C'est par convoi.
Ouais, j'imagine qu'il doit y avoir un pilote aussi qui doit...
Oui, ça, c'est avec des bacs. Des bacs qui vont guider, justement, les tankers, super tankers. Et enfin, pour terminer, bien évidemment, la compagnie Suez, GDF Suez, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, j'ai parlé de la compagnie universelle du canal maritime de Suez, c'est la même société qui s'est retrouvée sans rien, justement, après la nationalisation de Nasser, et qui s'est reconvertie dans les activités qu'on connaît aujourd'hui. Mais c'est la même société, donc qui existe depuis le milieu du 19e siècle. Tu es un peu le vainqueur moral, Dino, mais tu t'es fait griller.
Oui,
j'ai vidé tout le cœur, j'ai mis DRS et hop en avant.
Je vous ai mis complètement sur la voie et voilà.
Ouais, mais j'avais 20 km/h d'écart avec toi, donc.
Oui, mais c'est pas ça le sport.
Alors, j'aimerais vous raconter ce qui s'est passé ce jour-là en F1, mais on est mi-novembre. Donc,
il s'est passé un événement historique.
Oui, c'est vrai. Le 17 novembre 2013, Vettel a gagné sa 8e victoire de suite.
Et voilà.
Alors, on sent quand même que, même dans le paddock, ils ont compris que le record, était à relativiser parce qu'il y avait Ascari qui avait gagné 9 engagements de suite. Donc, maintenant, c'est devenu, il a remporté 8 courses de suite dans une même saison. C'est le même record, hein, faut le savoir. Mais, là, voilà, ça donne un vrai record, unique de Sébastien Vettel, incontestable. Voilà, va falloir attendre le prochain Grand Prix et le Grand Prix d'Australie pour pouvoir dire, bon, là, c'est le vrai record, toute course confondue, tout engagement et compagnie.
C'est sûr, parce que bon, voilà. À force de quoi de...
Là, ça se trouve, oui, Kartik Ayon, ou... Non.
Non. Donc voilà, ce sera tout pour l'éphéméride cette semaine.
C'était un bien bel éphéméride, Chine.
C'est très bien.
Mais sinon, pour le France-Bulgarie, c'est vrai, hein, c'était aussi l'anniversaire du France-Bulgarie.
Un signe. Ah, on va quoi. Faire aux Ukrainiens ce que les Bulgares nous ont fait.
Ouais. Dino, on va passer à la partie actu.
Si tu veux. T'as rien préparé, donc.
Toi, t'as rien préparé.
Que dalle. Je suis Picard.
Bah, on attend la titularisation du Hülkenberg, en fait.
Oui, alors c'est on va commencer quand même par revenir sur les annonces du week-end, hein.
Oui.
Nous l'avons appris dimanche soir dans le Canal Football, dans le Formula One.
C'est le même décor. Donc,
nous avons appris dans Formula One que Maldonado chez Lotus.
C'est sûr.
C'est sûr. Hein, c'est des gens de chez Lotus qui le disent. C'est sûr. Que ça fait longtemps que c'est signé chez Force India pour Hülkenberg. Tout ça, c'est les annonces de Jean-Luc Moncey. Voilà, c'est Jean-Luc nous annonce des choses sans forcément citer de source ou en s'appuyant sur des rumeurs qui datent il y a quelques semaines, même si aujourd'hui elles tendent effectivement à se confirmer.
Il y a un truc qui s'appelle le conditionnel. Les mots probablement, il est fort possible.
Mais surtout, ce qui est agaçant avec Jean-Luc Moncey, c'est que c'est exactement le même bonhomme qui, il y a encore à peine un an, ou même encore cette année, parfois dans les spécialistes, etc., qui se plaît à dire que, à critiquer ceux qui sont assis chez eux, qui vont jamais dans le paddock et qui font des rumeurs. Lui, dernière nouvelle, Formula One s'est enregistré à Paris, Seine-Saint-Denis ou un truc dans le genre. Pas du tout à Austin. Et donc voilà, il est très rarement dans le paddock, même si c'est quelqu'un qui est dans le milieu depuis quelques années, etc., et qui a évidemment des contacts, il est nécessaire pour lui de ne pas faire des vérités là où il n'y en a pas pour le moment. Et j'ai même envie de dire, même si le Roger Benoît, journaliste pour Blick, le journal suisse, a confirmé aujourd'hui que ça serait signé, que...
Non, mais parce qu'en plus, oui, si ça se trouve, il a raison, peut-être, en effet, ça sera même peut-être ça, même probablement ça. Mais
ni
voilà.
Ni l'un ni l'autre ne sont plus crédibles l'un que l'autre. Les deux avancent quelque chose sans avoir de fait, si ce n'est de dire, si ce n'est de mettre des chiffres et de dire, oui, on m'a dit que...
Il y a aussi un autre truc avec Jean-Louis Moncey, c'est que l'année dernière, il était sur place. Il pouvait aller, alors si je vais faire un mauvais jeu de mots, il allait dans les toilettes et il pouvait avoir plein d'informations.
Oui.
Là, c'est pas le cas. Là, il est obligé d'utiliser son réseau. Je pense qu'il est quand même assez, il est là depuis longtemps, mais on a l'impression que ces infos datent un peu, en fait.
Mais après, c'est-à-dire que peut-être qu'il a raison. D'ailleurs, aujourd'hui, on a des déclarations qui sont concordantes. Pour Force India, ça fait longtemps qu'on en parle. C'est pas nouveau. Là, c'est confirmé par. Il me semble que c'est Roger Benoît. C'est Benoît quelque chose. Enfin, il y a un Benoît dans le nom. Après, c'est le problème de ces rumeurs qui sont traitées comme des affirmations. On te dit voilà, c'est fait, et qui entraîne chez le lecteur, l'auditeur ou le téléspectateur, qui entraîne une confusion. Pour le moment, jusqu'à confirmation de l'une ou de l'autre partie, pour le moment, Maldonado n'a pas signé chez Lotus. Dans les dernières déclarations qu'a fait Maldonado, il a simplement déclaré qu'il attendait de savoir s'il allait signer chez Lotus, même si on sait très bien qu'aujourd'hui c'est la piste numéro 1. De la même manière que Hülkenberg est très très clair dans ses discussions, qu'il a lui-même dit que chez Lotus c'était très mal engagé, que ça soit sans doute Maldonado, qu'il était effectivement en discussion avec Force India, avec Sauber. Il est très honnête sur qui nous tient vraiment informé. Il n'y a pas besoin derrière de venir affirmer des choses quand ce n'est pas officiel. J'ai envie de dire, tant qu'on n'a pas une confirmation officielle de l'équipe ou des pilotes, ce n'est pas fait. Et pour le moment, dire à la télévision juste après un Grand Prix, à une heure de grande écoute, ça c'était 22 heures, mais dire c'est fait, c'est pas fait. Tant que c'est pas officiel ou tant que t'es pas capable de nous produire deux sources concordantes, ce n'est pas fait.
D'autant plus que la personne de Quantum claironne encore beaucoup le fait que ça va être payé et que ça changerait des choses. Alors moi j'y crois pas du tout parce que ils ont pas l'air fiables, mais il n'empêche que je pense que Lotus, enfin Eugeni, attend quand même. Et c'est ce qui fait qu'ils attendent pour signer Maldonado. Donc, je pense que malgré tout Maldonado est un plan B parce que avec Grosjean et Total, c'est surtout Total. Je vois mal comment PDVSA peut arriver à faire fonctionner les deux.
Non, le fond c'est pas ça. Le vrai truc, c'est, et ils l'ont expliqué, c'est qu'ils ont fixé une date limite à Quantum pour avoir l'argent qui est fixé au Grand Prix du Brésil, et ils attendent le Grand Prix du Brésil parce que depuis des semaines ils disent qu'ils veulent Hülkenberg, ils disent aussi que c'est leur choix préférentiel par rapport à Maldonado, et que dans toute leur communication on sent bien que Maldonado ne serait que la solution de repli et l'assurance d'un budget.
C'est le plan B.
C'est le plan B, mais on est bien d'accord. Mais
il y a toujours la question de Total et PDVSA, mais c'est pas ça qui bloque.
Je sais bien que c'est pas ça. Mais dans le cadre d'un plan B, ce que je voulais dire, c'est que PDVSA et Total, ça risque de poser problème pour Grosjean. Parce qu'on pourra pas mettre les deux sponsors sur la même voiture. C'est pas possible. Ils travaillent sur le même business, ça s'est jamais vu, dans une période récente. Même si je sais que chez
Ferrari,
c'est pas
forcément une question de business. Faut pas oublier, c'est que pour nous c'est une question de business parce que ce sont deux pétroliers. Mais après, PDVSA a son public, Total a son public.
Oui, c'est l'histoire de marché.
Ils ont leur propre marché, des marchés à conquérir. Et pour le coup, à la limite pour Total, ça serait plutôt bon signe que d'être à côté de PDVSA, à côté du mastodonte vénézuélien. En termes d'image, voilà, c'est directement le mettre en concurrence pour ceux qui connaissent Total.
Est-ce qu'on sait combien Total amène à Lotus?
Apparemment, ce serait 10 millions, je crois.
Sincèrement, c'est très peu.
Oui.
Je suis même pas sûr des 10 millions, sincèrement, c'est très peu.
Par contre, il y a un autre
problème. Quand on voit le temps qu'ils ont mis à confirmer, alors qu'on sait que Total, c'est lui qui justifie, entre guillemets, la présence de Grosjean cette saison. Quand on voit le temps qu'ils ont mis à confirmer, c'est que dans la balance, l'argent qu'apportait Total, pour Grosjean et pour le sponsoring de Lotus, notamment par le biais de Renault, l'argent qu'apportait Total est pas non plus,
D'ailleurs, Dino, je t'arrête, mais, c'est officiel, Grosjean? Pour moi, c'est pas signé, hein.
C'est pas signé, c'est vrai.
Non, je te parle l'année dernière, ce qui fait que
l'année dernière. Aujourd'hui, c'est toujours pas signé non plus.
C'est toujours pas signé. Et c'est ce qui a été réactivé par l'éviction de Pérez, c'est que personne n'est à l'abri, même quelqu'un comme Grosjean qui fait de bons résultats. On le voit avec l'éviction de Pérez qui peut être parfait de son équipe. On le voit avec Hülkenberg, il va peut-être devoir se contenter de Force India ou de rester chez Sauber, alors qu'on lui promettait Ferrari, McLaren et Lotus ces dernières semaines. Donc c'est la preuve que aujourd'hui dans ce marché et dans la situation dans laquelle se trouve la Formule 1 aujourd'hui, même les plus riches, même les plus talentueux ne sont pas à l'abri.
Parce que pour le coup, PDVSA et Telmex, ça irait bien ensemble. Hein.
Ah oui.
Et là, c'est pour ça que moi, Grosjean, qu'il soit pas signé.
Ça va bien ensemble parce que c'est latino-américain.
Exactement.
Mais
et il se concurrence pas.
Si l'identité nationale ou supranationale avait une importance, Acherté aurait fonctionné.
On est bien d'accord.
Il y aurait depuis longtemps une équipe chinoise avec des sponsors chinois. Non, c'est aujourd'hui vraiment quand tu sponsors une équipe, c'est pour le faire voir à l'international. Et PDVSA a surtout besoin aujourd'hui d'un regard international. Et pareil pour Telmex, ils n'ont pas forcément besoin de viser le marché local, le marché sud-américain, mais plutôt de viser le marché international. Et donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme nouvelle ce week-end? Il y a eu Pirelli qui a menacé de... Alors, c'est un sujet très intéressant proposé par Pirelli. Ils ont mis tout simplement les équipes à s'en fait accompli. Ils leur ont dit, voilà, il n'y a pas d'essai, il n'y a pas de... vous voulez rien faire. Bah écoutez, nous l'année prochaine, on va faire les pneus que l'on veut faire. On n'a aucune obligation contractuelle avec la FOM et avec les écuries, avec qui que ce soit. On a juste un accord verbal qui nous engage plus ou moins à faire des pneus pour le spectacle. Aujourd'hui, vous ne voulez pas mettre en place des essais ou vraiment travailler pour que ça se passe dans de bonnes conditions, sans attendre un autre âge. Donc nous, aujourd'hui, on va faire les pneus qu'on a envie. Et si vous voulez faire du spectacle, soit vous allez imposer dans le règlement que les écuries fassent deux arrêts, c'est-à-dire le règlement stipulera que peu importe les pneus que les écuries ont, elles sont obligées de faire deux arrêts en course. Soit vous mettez dans le règlement qu'on demande aux fournisseurs pneumatiques de fournir des pneus qui font deux arrêts de manière à ce que, si jamais il y a des critiques, Pirelli pourra toujours dire, mais écoutez, nous, le règlement nous impose de faire ce genre de pneus, on fait ce genre de pneus.
Ça va même pas jusqu'à, on va dire, une inscription contractuelle dans le règlement. C'est, ils veulent juste une direction. Ils disent, nous, tout ce qu'on demande, c'est que les équipes nous disent qu'est-ce qu'elles veulent pour l'an prochain.
Et encore une fois, genre on reparle, on est en fin d'année, on n'a toujours pas signé Pirelli.
Ah si, ça par contre, si, c'est confirmé pour l'an prochain.
C'est signé, ça.
Au moins pour l'an prochain.
Alors ça, je l'ai pas vu, moi.
Non, après, ça a été confirmé par la FIA.
Après, il y a cette histoire de transitoire, on sait pas trop ce qui se cache derrière ce terme, en fait.
Le truc, c'est que, alors pour essayer de synthétiser, c'est que Pirelli a un contrat et a toujours eu un contrat commercial avec la FOM depuis pas mal de temps, mais que pour ça, et même s'il passe un contrat avec la FOM, il faut quand même qu'il soit désigné par la FIA.
Oui, mais le contrat avec la FOM, c'est le contrat avec...
C'est le contrat commercial.
Pirelli. Commercial pour mettre des panneaux sur le circuit, sur les circuits.
Oui, mais qui oblige. Tu peux pas avoir, t'imagines pas un autre constructeur venir en ayant Pirelli a écrit partout sur le, c'est pas possible. Donc, la FIA, par contre, eux, cette année, ils ont réussi à négocier dans le cadre des accords Concorde, etc. Ils ont réussi à renégocier, une souveraineté sur le choix des fournisseurs. On se souvient qu'ils avaient parlé des pneus, mais aussi du carburant, parce qu'ils envisagent plus ou moins d'imposer un carburant unique.
Ils envisageaient, parce que apparemment ça, les équipements veulent pas.
Et donc, dans ce domaine-là, ils disent, avec nos nouvelles prérogatives, on tient compte du fait qu'il y a un contrat, on aura Pirelli comme fournisseur. Maintenant, on va renégocier ce contrat, on va partir, on va essayer de trouver un compromis avec Pirelli, qui a un contrat commercial de 5 ans, je crois. Mais nous, on veut pas 5 ans, on veut une période plus courte, une période de transition. Transition vers quoi? Mais en tout cas, ça ne sera pas pour le moment, parce que l'année prochaine, c'est Pirelli. Le contrat, il existe. On n'a juste pas les détails de ce contrat, mais il existe. C'est-à-dire que la FIA s'est pliée au contrat qui existe avec la FOM.
Donc après, ils vont tester apparemment la semaine prochaine des pneus.
Ouais.
On va voir qu'est-ce qu'ils vont proposer, comment vont réagir les équipes. Mais eux, visiblement, Pirelli, c'est juste une direction qu'ils veulent.
Honnêtement, enfin, je pense au moins ils pourront tester des pneus la semaine, enfin vendredi, samedi ou dimanche. Enfin, vendredi plutôt, c'était prévu vendredi parce qu'ils annoncent à Sao Paulo beaucoup de pluie pour tout le week-end.
Oui, puis de toute façon, enfin, ces tests-là, ça fait des années qu'ils les font. C'est une très bonne initiative de Pirelli. C'est le seul aujourd'hui, c'est la seule chose, la seule manière qu'ils ont de faire essayer les pneus. Il y avait ces dernières années, il y avait les essais jeunes pilotes qui permettaient aux équipes d'avoir un aperçu des pneus. Sauf que cette année, les équipes ont décidé de faire leurs essais en milieu de saison, qui fait que, moi j'en ai parlé un peu plus tôt dans la saison, qui fait que donc du coup, il n'y aura pas de découverte des pneus, qu'on va encore faire ça au Brésil, que personne ne va les essayer, parce que effectivement, on est dans le cadre d'un week-end de course, de préparation, d'un week-end, même s'il n'y a plus d'enjeu championnat, les équipes vont quand même jouer parce que c'est leur dernière chance de sauver quelque chose dans la saison. Il reste quand même des enjeux pour certaines équipes.
Et donc, tout le monde va se plaindre l'an prochain.
Et tout le monde va se plaindre parce que, ah bah ouais, mais on n'a pas vu venir les pneus, etc. Donc, à la limite, c'est bien joué de la part Pirelli de communiquer sur ces pneus et de, moi je serais Pirelli, j'harcèlerais tout le week-end, voilà, et puis je ferais un beau communiqué en disant, voilà ceux qui ont essayé nos pneus, voilà ceux qui ne les ont pas essayés, voilà. Tout ce que je souhaite, c'est que ce soit pas perturbé par la pluie pour que justement les équipes n'aient pas l'excuse de dire, ah oui, mais il pleuvait.
Mais après, même après les avoir essayés, est-ce que les équipes vont réussir à se mettre, parce que c'est ça le truc, c'est, est-ce qu'elles peuvent se mettre d'accord pour essayer de dire, voilà à peu près ce qu'on veut comme pneu pour l'an prochain? Parce que sinon, forcément, il y aura toujours des équipes qui vont gueuler, hein.
C'est pas l'inverse qui se passe normalement. Pirelli propose son pneu et c'est aux équipes d'adapter leur voiture.
C'est ce qu'ils font. Ils disent, nous écoutez, si vous ne nous donnez pas de direction, l'an prochain, vous aurez des pneus super durs, il y aura qu'un seul arrêt par course, on va se faire chier.
Mais je pense que Pirelli, quand ils disent qu'ils veulent une direction, c'est vraiment qu'ils veulent quelque chose de concret, quelque chose de gravé dans le marbre. Ils veulent un contrat, ils veulent que ce soit précisé et qu'ils puissent ressortir aux équipes. Oui, mais regardez, vous avez tous signé. C'est vous qui nous avez demandé ça, nous, vous, pour nous.
Oui.
L'argument qu'ils utilisent depuis 3 ans de dire on fait des pneus pour le spectacle, c'est un argument qui est parfaitement valable. Ils n'arrêtent pas d'asséner à raison. Les équipes elles-mêmes reconnaissent que c'est ce qu'elles ont demandé initialement. Mais dans les moments de crise, il n'y a rien de concret à mettre en avant aux fans ou aux partenaires ou aux clients pour leur dire non, mais c'est ce qu'on nous demande. Parce que fondamentalement, on peut très bien dire ouais, c'est juste, ils se couvrent les uns les autres et compagnie. On n'a aucune trace écrite, on n'a aucune obligation écrite de cet objectif qui est fixé à Pirelli. Donc pour Pirelli, Gus, nous tant qu'on a rien de précis, on fait rien.
Ben pour Gus Gus, c'est même déjà trop tard et on aura des pneus ultra durs en prochain.
Ben oui, de toute façon.
Bridgestone like de Mike, sans doute. Visiblement, vu à quel point ils ont l'air d'être durs, sans doute, ouais, de façon Bridgestone.
Le problème, c'est que cette année, les pneus ne supportent pas la charge aéro que les voitures ont embarqué cette année. Et c'est vraiment, moi, je pense que c'est vraiment un problème de course, parce que c'est probablement des pneus qui sont bien faits pour le GP2 ou le GP3, mais pas pour la F1 qui amène beaucoup plus d'appui avec le fond plat, avec tout ce qu'il y a.
Non, mais c'est justement le problème, c'est qu'on a des équipes qui font leur popote de leur côté, qui interprètent le règlement de leur côté, et on a un
pneumaticien qui n'écoute même pas les recommandations de Pirelli.
Voilà, on a un pneumaticien qui fait son boulot, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on nous dit oui, la Formule 1 c'est de l'appui compagnie, c'est de l'appui et c'est de la charge. Parce que les équipes conçoivent leur voiture de cette manière. Sauf que les voitures conçoivent leur voiture de cette manière en oubliant qu'il y a des pneus. Et que la Formule 1, c'est un ensemble. Et ça, c'est ce qu'on n'arrête pas de dire depuis le début de l'année, etc. C'est un ensemble entre un pilote, une équipe, des ingénieurs, un moteur, une voiture, etc. Et des pneus. Sauf que, on oublie les équipes, mais elles-mêmes oublient ce paramètre pneu sans lequel elles ne sont rien. Donc, c'est juste une question de elle demander quelque chose clairement aux équipes à Pirelli. Pirelli s'engage à faire quelque chose de manière écrite ou quoi que ce soit. Il y a des essais qui sont menés au préalable. Il y a un vrai travail de développement qui est mis en place et tous les constructeurs vont arriver avec une voiture qui tiendra compte du critère Pirelli. Le problème, c'est que ça fait 3 ans qu'on conçoit des voitures sans tenir compte des pneus. C'est juste
oui,
un
mais
non-sens.
D'un autre côté, l'année dernière,
c'est juste un non-sens d'avoir des constructeurs automobiles qui ne tiennent pas compte des pneus.
Ouais, mais on voit bien qu'une équipe à l'autre, de toute façon, suivant la voiture, les pneus réagissent pas du tout de la même manière, parce qu'on a des équipes qui étaient très très satisfaites, enfin pas, je vais pas dire très satisfaites, mais il y a des équipes qui ne râlaient pas forcément contre Pirelli, alors que d'autres, Mercedes, on sait pourquoi, mais il y en a d'autres qui s'en plaignaient énormément. On a bien vu que Force India, une fois que les Pirelli ont changé, c'était une catastrophe.
Mercedes aussi.
Voilà.
Mercedes aussi,
donc ça change, c'est vraiment en fonction des équipes également.
Mais tout le monde le dit, hein, c'est une loterie. C'est-à-dire que chacun développe sa voiture avec, il faut quand même reconnaître qu'il y a quand même un système d'information qui est en place, donc ils ont quand même des informations sur lesquelles se baser, ils partent pas à l'inconnu. Et arrivent les premiers essais, et c'est un peu, on joue à la courte paille, qui a tiré le meilleur package avec les pneus. C'est juste incompréhensible qu'on soit face à des gens qui sont quand même des professionnels de la course automobile, qui sont le pinacle du sport automobile, certains qui ont des dizaines d'années d'expérience dans le sport automobile, dans la construction automobile. C'est juste impensable que ces mecs conçoivent une voiture sans même se dire « Ah, faut peut-être qu'on se renseigne sur les pneus, qu'on sache ce qu'on fait avec les pneus ». C'est effectivement plus l'époque de Bridgestone, où Bridgestone nous annonçait de temps en temps « Oui, on a changé les pneus, c'était une fois tous les 3 ans, et puis c'était un changement qui ne modifiait pas complètement la philosophie ». La Pirelli, ils sont obligés, ils l'ont dit dès le début, ils sont obligés, pour apporter du défi et répondre aux objectifs qu'on leur fixe, ils sont obligés de revoir régulièrement leurs pneus. Ça nécessite nécessairement, donc, du côté des équipes, de s'entendre pour pouvoir collecter des données, ce genre de choses, ce qui n'est pas fait.
Oui, mais justement, vu que les équipes, elles commencent à préparer leurs voitures pour 2014, là, les pneus 2014 sont pas encore disponibles, donc en même temps, ils peuvent pas forcément...
Mais non, ils sont disponibles. Ça fait des mois qu'ils peuvent être disponibles, les pneus, que Pirelli travaille dessus. Mais à un moment donné, il faut bien les mettre sur une voiture. Donc, du coup,
oui, mais c'est seulement au Brésil, là. C'est seulement pour le prochain Grand Prix.
Ils ont essayé,
à l'issue du Grand Prix des États-Unis, il devait y avoir une séance d'essai de 2 jours, et les équipes n'ont pas réussi à se mettre d'accord.
C'est ça le truc, c'est que Pirelli amène ses pneus au Brésil et les amène en essai libre parce qu'ils n'ont pas d'autres solutions. Ils n'ont rien réussi à trouver d'autres. Ça fait 3 ans que Pirelli propose un tas de choses pour essayer de faire avancer le chemin public et que les équipes ne répondent pas. Et voilà, les pneus Pirelli, ça fait pas mal de temps qu'ils travaillent dessus, ça fait pas mal de temps qu'ils sont développés, qu'ils ont une idée de la structure, qu'ils savent qu'ils sont plus durs. C'est même eux qui anticipent pour les réglementations, etc. C'est eux-mêmes qui ont décidé, oui, on va pas ajouter le critère pneu en plus. Donc les pneus, il suffit juste de les produire, ça prend quelques semaines. Ils auraient pu faire des tests, d'ailleurs, ils en ont déjà fait, hein, avec Mercedes, ils ont déjà fait des tests au mois d'avril. Il y avait dans le lot des pneus 2014. Ils en ont fait avant avec Ferrari aussi à Barcelone. Ils en ont fait depuis avec McLaren, avec Red Bull aussi. Donc, ils ont quand même déjà fait des essais avec des pneus. Mais c'est juste que les équipes ne se mettent pas d'accord pour prévoir une séance d'essai, un programme d'essai ou quoi que ce soit, juste par leur intérêt personnel.
Bah, pour Nico sur le chat, il dit, la seule solution sera un retour d'essai privé, même si ça coûte cher, pour pouvoir travailler sur les pneus.
Il y aurait une autre solution qui serait intéressante, c'est de laisser les voitures le lundi et le mardi, ou le lundi seulement. Mmh. Voilà. Tout le monde est là, quand c'est bon, là, entre, les États-Unis et le Brésil, il y a
ah non, semaine. Ça serait pas possible, non mais
il y a qu'une semaine, donc c'est compliqué. Ceci dit, il y a beaucoup de grands prix où il y a deux semaines voire trois semaines. Pourquoi ça ferait quand même au moins la moitié des grands prix où il y aurait une séance d'une journée où Pirelli pourrait rouler avec les voitures de course, avec des moteurs, faudrait définir évidemment un nombre de moteurs pour la saison pour ces essais-là. Et comme ça,
tu fais l'année prochaine.
Bah ouais.
Mais c'est ça le pire, c'est que les solutions, tout le monde les connaît. Même s'il suffit pas juste de
faire des essais d'accord.
privés pour, parce que faire des essais privés, après, ça implique aussi de se mettre d'accord sur le programme.
Ouais, mais on est en F1 privés, et les gens ne peuvent pas se mettre d'accord.
C'est une vue à courte durée. Et c'est le problème de la Formule 1, c'est que la Formule 1, on le voit, c'est un exemple criant. On va aller un peu au-delà des pneus, mais on le voit avec Lotus. Quand on a Toto Wolff qui déclare, mais à un moment donné, quand vous avez un budget, vous ne vivez pas au-dessus de vos moyens, vous essayez pas d'être une écurie qui se bat pour le titre de champion du monde. Et c'est le problème de Lotus. Lotus aujourd'hui, c'est elle-même mise dans les problèmes en engageant Kimi Räikkönen et en faisant des voitures championne potentiellement du monde. À un moment donné, t'as un budget, faut être réaliste. Tu fais en fonction de ton budget et tu finances ce que tu peux financer. Mais au moins, t'as de l'argent. Lotus, ils ont développé ça, ils ont une vue à courte durée. Ils se sont dit, c'est pas grave, on peut s'endetter, on va faire du résultat, mais on peut s'endetter. Bah, aujourd'hui, ils se rendent compte que non, on peut pas s'endetter. Il y a un minimum à faire. Et c'est le problème de la Formule 1 qui voit l'année en cours, mais qui voit pas plus loin que le bout de son nez.
Ceci dit, l'année prochaine, avec Maldonado, c'est Maldonado qui paiera Lotus. Donc, ce sera pas l'inverse. Là, avec Raikkonen, c'était Lotus qui payait Raikkonen, avec des systèmes de pilotes, on va dire, sponsorisés. Oui, mais ça,
c'est vrai que l'année prochaine, il va y avoir Maldonado, qui va rapporter l'argent,
ouais.
Mais l'argent va pas financer la voiture. L'argent, il va payer les dettes. Il va payer les dettes, il va surtout aider, Gérard Lopez à un peu se retirer légèrement, ne plus remettre d'argent dans l'équipe. Parce que depuis trois saisons, c'est Lopez qui fait emprunt sur emprunt pour payer le rythme de vie que s'imposait l'équipe. C'est juste pas possible. C'est à un moment donné, tu as l'argent, tu as les moyens, tu l'investis, tu l'as pas, et ben t'essayes de faire avec ce que tu peux faire. On voit déjà une équipe comme sérieuse comme Sauber qui se met dans la mouise financièrement, alors que pourtant il y a quand même eu des mecs qui ont ramené de l'argent, ils ont des sponsors, etc. Mais même là, ils ont du mal à finir. Comment est-ce que tu peux te féliciter de te battre pour la victoire, etc. en sachant pertinemment que tu payes pas tes employés.
Dino, est-ce qu'il y a d'autres actus?
Oh, sans doute, mais
on aura. Il y a le truc qu'on avait évoqué lors du dernier SAV, c'est le calendrier 2014. Visiblement, ça sera bien 19, hein. Peut-être 20. Bon, la Corée, on sait pas encore trop, mais bon, ça a l'air mal barré aussi.
Dans les actus, il y a Kovalainen. Enfin, le choix de Kovalainen aussi, avec tout ce qu'il
oui,
y a
vrai
eu.
Que, c'est vrai que l'émission la semaine dernière, c'était pas encore officiel.
Ça a été oui.
Ouais. Si tu lances Dino là-dessus.
Non, bah, qu'est-ce qu'ils avaient d'autre comme choix?
Oui, voilà.
Enfin, ils avaient Valsecki?
Non.
Pas, enfin.
Choix. C'est dommage, quand même.
Ce que je veux dire, c'est que on en revient aux pilotes qui ne font pas d'essai, parce qu'il n'y a pas d'essai. Voilà. On est vraiment dans une situation où, les troisièmes pilotes, s'il y en a, il faudrait qu'ils roulent. Alors, on en revient. Moi, je pense que la meilleure solution, c'est de rouler le lundi qui suit le Grand Prix. Avec les voitures qui sont là, on fixe la carrosserie, on change plus rien. Et puis voilà quoi, on met les voitures en parc fermé.
Ça les équipes accepteront jamais.
C'est pas aux équipes de décider si elles acceptent ou pas.
Oui, non mais
Tu l'imposes dans le règlement.
Ah, tu peux l'imposer, mais le problème c'est qu'aujourd'hui, qui va l'imposer ce règlement?
Ah, c'est la FIA.
Mais dans ce cas-là, il faut faire une révolution. Il fut un temps où la FIA aurait pu l'imposer. Et la réalité aujourd'hui, c'est que sans l'accord des équipes, tu ne fais pas un règlement. C'est terrible, mais c'est la réalité, malheureusement.
Ouais, la seule contrainte, c'est pour raison de sécurité, c'est le seul truc. Mais là, on peut pas l'invoquer.
Mais après, c'est ce qu'a dit Boulier, c'est-à-dire que Valézeki, ça serait arrivé au milieu de saison, il l'aurait pris. Bon, après, on peut remettre en doute, mais la logique qu'il explique derrière, oui, on l'aurait pris, le championnat n'est pas forcément fait, il a le temps d'apprendre, il faut quelques grands prix pour se mettre en jambes, donc peut-être qu'on l'aurait pris. Ils auraient peut-être même fait, pas forcément un Valézeki, mais un autre jeune pilote. Là, il reste deux grands prix, il y a un enjeu qui est énorme. Voilà, tu ne pouvais pas prendre Valézeki, c'est impossible.
Ah oui, ça, on est d'accord.
Le meilleur pilote sur le marché, c'était Kovalainen.
Le meilleur pilote libre sur le marché, parce qu'il y en avait d'autres qui étaient libres, mais qui se sont fait, qui sont devenus plus libres. Je pense à Hülkenberg, par exemple. Mmh. Avec des rumeurs, toujours, hein, sur, sur le rachat, enfin, le paiement des salaires.
Même Gérard Lopez l'a dit, et c'est vrai que ça paraît étonnant que, comme par hasard, Sauber ait trouvé de l'argent, comme par magie, pour payer Hülkenberg.
Bah, c'était oui. À eux de proposer, hein. Ils auraient été malins. Ils auraient proposé à Sauber de payer le salaire.
Oui.
En tout cas, une partie du salaire. Ils n'ont pas fait. Mais le problème, c'est que voilà, c'est que Lotus ne peut pas le faire.
Bah oui.
Ils ont pas d'argent. Ils ont déjà pas réussi à payer Raikkonen, à un moment donné.
Mais il va y avoir de plus en plus d'équipes qui vont demander, enfin, de plus en plus de pilotes, ça va être écrit dans les contrats, je pense, où ils vont payer d'avance. Parce que là, Lotus, c'est comme si c'était une société qui était en redressement judiciaire.
Ah, c'est vrai
là...
que, ouais, hors prime, oui.
Ah, bah ouais.
Non, mais, sincèrement, quand tu prends l'histoire de Raikkonen, c'est, cette histoire de salaire, moi, c'est une vaste fumisterie. On sait très bien comment est le contrat de Raikkonen. C'est le même que l'année dernière. Il a un salaire de base, qui, de mémoire, était l'an dernier de 3 millions. Et après, c'est au point. Enfin, quand même, tu peux attendre la fin de saison pour être payé de tes bonus en points.
Oui, voilà. D'autant que par le passé, il y a eu déjà des gens qui ont eu tous leurs points d'annulés. Et donc là, dans ces cas-là, ça justifie tout à fait.
C'est ce qui est arrivé l'an dernier à Raikkonen, c'est qu'il a été payé en fin de saison, il n'y a pas eu de problème. Bon, là, c'est un ensemble de choses qui s'est greffé et qui a fait ça. Mais le non-paiement du salaire, on a fait beaucoup de com là-dessus. C'est effectivement un, qu'on appelle un deal breaker. C'est effectivement quelque chose qui justifie une rupture de contrat. Mais il faut pas oublier, c'est que Kimi Raikkonen n'est pas forcément le plus à plaindre des gens qui ne sont pas payés en Formule 1 actuellement.
Ah non.
Que ceux-là, on en parle très peu, et qui pour eux, pour le coup, c'est vraiment un salaire mensuel, mois par mois, et non pas des bonus qui ne sont pas payés. Kimi Raikkonen, il y a le salaire de base de 3 millions, qui était peut-être pas payé du tout. Mais au moins, il savait déjà que la très très large majorité de son salaire, de toute façon, il l'aurait qu'à la fin du championnat, quand on ferait le calcul des points. Donc
on va passer à la course, et d'abord aux qualifications. Et les deux guignols de la semaine sont Adrian Sutil et Pastor Maldonado, l'homme à qui on a saboté une voiture. Mais il s'est excusé depuis.
Ouais, il s'est fait défoncer par son attaché de presse, ouais.
Ouais.
Il a dit qu'il n'était pas fou. qu'il avait très, très mal réagi. Mais en même temps, la manière dont il s'excuse, je trouve, il sauve bien les choses. Vraiment, il fait son analyse, quoi. Il dit, voilà, j'étais frustré, énervé, ce qui s'est passé dans la semaine, j'ai très mal réagi. C'est pas juste, non, j'ai eu tort, et puis, je m'excuse, et voilà. Non,
mais
vraiment.
Mais t'es sûr que c'est lui qui l'a dit, ça? C'est pas écrit par l'attaché de presse, justement?
Ah, bah, après, peut-être. Mais en tout cas, il y a quand même une explication qui est un peu plus fouillée et qui ressemble à une, je vais dire, une autocritique, même si elle est faite, un communiqué de presse aurait été simple. Voilà, j'ai commis une erreur, je m'excuse auprès de l'équipe si j'ai blessé les gens, etc. Là, quand même, il dit, il revient vraiment sur sa mauvaise humeur, etc. Et il finit en disant, je suis pas fou. Quoi. Donc, je pense que vraiment, il y a peut-être une vraie remise en question personnelle.
Ouais, ouais. Où il a dû se dire également, mince, j'ai toujours pas de volant, j'ai toujours rien signé, faut vraiment que je dise quelque chose de valable, parce que sinon.
Tu crois vraiment que Maldonado est le genre de personne à se dire, mince.
Non, mais son attaché de presse qui est derrière, oui.
Non, mais déjà le fait que quelqu'un comme Maldonado se soit permis d'accuser William de sabotage, il y a plusieurs raisons qui font que c'est pas crédible. Déjà, Williams qui sabote sa voiture. On se rappellera juste comme que c'est dans une Williams qui est mort Ayrton Senna, que il y a eu des procès, etc. Non, elle n'était pas sabotée, mais c'était un accident. Donc, s'il y a bien une équipe, on imagine mal trafiquer la voiture de son pilote en sachant que potentiellement, parce que même si c'est que la pression des pneus, le pilote peut très bien avoir un mauvais ressenti, aborder un virage d'une manière, être surpris par le comportement de sa voiture et faire une faute, partir à l'accident et mourir. T'imagines le mec de chez Williams, il dirait, ouais, les gars, on va tenter ça, quand tu sais que l'histoire de Williams, c'est quand même marqué par l'accident d'Ayrton Senna, par l'accident du patron. Enfin, voilà, il y a quand même un contexte qui fait que s'il y a bien une équipe en Formule 1 qui ne sabotera pas sa voiture, c'est Williams. Puis il y a une raison bien plus pragmatique, c'est qu'avant le week-end, Williams n'avait qu'un seul point, qu'elle n'était pas à l'abri d'un miracle pour Caterham ou pour Marussia, que imaginons une Marussia, un Grand Prix catastrophe, cataclysme, comme on a déjà pu connaître par exemple au Brésil, et Marussia marque 2 points, Williams 0, et ils perdent beaucoup d'argent. De la même manière, là, ce week-end, ils avaient une bonne voiture, s'ils avaient la possibilité de mettre les 2 voitures dans les points, ils l'auraient fait, je pense, sans problème.
Évidemment.
Donc, voilà, c'est vraiment avoir une vue à courte durée, et c'est pas pour Maldonado, hein, parce que, à la limite, n'importe qui l'aurait dit, ça aurait été débile. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui s'en sont pris à Maldonado parce que c'était Maldonado, mais ça aurait été n'importe qui, le discours aurait été tout aussi stupide.
Ouais, mais tu crois pas que le fait que il sache qu'il a 35 millions de dollars derrière lui, rend la personne un peu plus arrogante?
C'est comme Pérez.
Oui.
Bah, quand tu prends les deux, quand tu écoutes Maldonado en arrivant à Austin, c'est lui qui a décidé de quitter Williams. Il l'a dit. J'ai pris ma décision, je crois que c'était à Singapour, j'ai pris ma décision, j'en ai parlé à l'équipe, j'ai quitté l'écurie. Oui. Alors dans ce cas-là, si tu as quitté l'écurie, pourquoi tu as attendu d'annoncer, enfin l'annonce de Massa, hein, qui laisse comprendre que tu t'es fait virer, pourquoi est-ce que tu l'as pas annoncé avant si tu avais décidé de quitter l'équipe, et pourquoi est-ce que tu attends toujours un baquet? On quitte pas une équipe si on n'a pas de solution, donc voilà.
Oui.
Il a fait un peu comme Pérez. Pérez, il a senti le vent tourner, bah il a pris les devants McLaren, il a un peu surpris tout le monde, il a dit je pars. Il a pas caché qu'il se faisait virer, mais il a pris les devants, il a court-circuité la communication. Pérez, on l'avait déjà fait l'an dernier où il avait annoncé Gutiérrez, il avait dit que ce serait son successeur alors que Sauber n'avait encore rien annoncé. C'est effectivement des mecs qui ont de l'argent et qui pensent pouvoir tout se permettre en matière de com. Et je suis pas forcément mécontent de voir qu'ils sont sans volant pour le moment.
Sinon, Sutil, non, ça ne vous inspire pas?
Bah, est-ce que Sutil inspire grand monde?
C'est-à-dire qu'ils sont partis pour le garder.
Oui, c'est ça qui est curieux.
Tu penses qu'ils vont le garder? Ils vont pas ils vont pas garder Di Resta?
Non. Bah, apparemment, Di Resta. Di Resta, je pense qu'il faut qu'on lui dise au revoir. Parce que Di Resta a pas mal, il a annoncé de toute façon qu'il voulait partir à l'écurie à la fin de l'année. Visiblement, Forcidia se dit, bah, écoute, tu veux partir, bah, vas-y, pars. Il y a quelque chose qui s'est cassé, en communication. Di Resta a trop traîné sa peine et trop vous exprimer son envie d'aller voir ailleurs pour rester chez Forcidia. Je pense que Forcidia, il préférerait peut-être rappeler Hülkenberg. Et Sutil, bah, il apporte un sponsor, donc voilà, il se murmure que son sponsor aurait remis un peu plus d'argent sur la table, donc du coup, ils font sensiblement les mêmes résultats cette saison.
En Q2, Jean-Éric Vergne a fini 16e, Felipe Massa a fait 15e.
On s'en fout.
Ah non, quand même, c'est pas banal.
Mais c'est un pilote William, si ça vit.
Ah non.
Moi, je t'en ai parlé, Lino, quand je t'avais eu sur Skype. Je m'attendais pas du tout à ce que Massa réussisse une qualification, mais vraiment pas du tout. Il s'est fait jeter par Ferrari. Ferrari a besoin. Il a bien dû voir les tractations qui ont été faites avec Raikkonen pour que. Enfin, bah, je le dis. Hein, je vais pas dire qu'il y a que plomb, mais je veux dire que c'est une bonne guerre de dire à Raikkonen, bon, c'est pas la peine de rouler contre nous. Voilà, et je pense qu'il a tout à fait joué là-dessus. Je pense pas qu'au Brésil, il va retrouver son niveau normal.
Tu veux dire que Massa se serait sabordé pour punir Ferrari d'avoir.
Non, je vais pas dire ça parce que je pense que il a pas envie de donner des points à Ferrari parce qu'ils l'ont jeté, quoi.
Ça, il l'aurait fait dès le début.
C'est-à-dire
que ça fait quand même, c'est pas hier qu'il a été mis sur la touche par Ferrari.
Ouais, mais c'est hier qu'il a son volant chez Williams. J'exagère en disant hier, mais
ah peut-être. Ouais, tu
veux dire
qu'en fait, maintenant assuré de son avenir, il aurait boulé Ferrari.
Évidemment.
Peut-être.
Et par contre, au Brésil, comme il veut y briller, comme toujours, hein, comme tous les pilotes brésiliens qu'on a connus, Là, je pense qu'il va retrouver son niveau.
Sinon, en Q2, on trouve Nico Rosberg à la 14e place. Là aussi, c'est quand même pas une place qu'on a l'habitude de le voir.
Alors, j'ai pas compris.
Alors, j'ai pas suivi du tout les essais pour ce Grand Prix, mais il avait sa voiture fonctionnait pas bien, donc pour ce week-end ou pas?
Mais enfin, en fait, ça. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a, déjà tout le long du week-end, il n'y a jamais véritablement eu les mêmes conditions climatiques. Et là, en qualification, en Q1, entre la Q1 et la Q2, les conditions se sont nettement rafraîchies. Et ça a perturbé pas mal de pilotes. C'est aussi un contre-argument de face à Maldonado qui a accusé son équipe, c'est que oui, t'as pas été le seul à être largué, mon coco. Massa s'est plaint, ne comprenait pas sa voiture. Rosberg aussi. Ils ont été vraiment surpris en Q2. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de têtes qui sont tombées en Q2. Des pilotes qui ne comprenaient plus leur voiture et au contraire des pilotes qui semblaient nulle part et qui se sont révélés, genre par exemple Alonso.
J'ai dit les Mercedes pour les essais parce que moi j'ai regardé. On a surtout vu Hamilton qui galérait avec sa voiture en entrée de virage où il y avait beaucoup de survirages, au premier virage où il freinait, il bloquait. Par contre, Rosberg, comme pour tous ses grands prix, on l'a quasiment jamais vu. Donc on peut même pas dire savoir s'il a passé des mauvais essais. On n'a rien vu de quasiment de ses prestations en essais.
Alors faut noter que on parlait de d'Hamilton. Hamilton a eu un nouveau châssis qui a visiblement parce qu'il y avait des grosses craquures dans son précédent châssis, donc ils ont changé le châssis. Peut-être qu'il y a le même problème sur la voiture de Rosberg. Peut-être une piste à étudier. Peut-être qu'ils ont filé le châssis de Rosberg à, enfin, le châssis d'Hamilton, le vieux châssis, ils ont dit, regarde, t'as mis un nouveau châssis, finalement. Si t'as un peu froid aux jambes, c'est pas grave.
13e place, Jenson Button. 12e, Paul Di Resta. 11e, Ricciardo. En Q3, Gutiérrez a fait 10e. Bottas, 9e. Ça change de la Q1.
Ouais. Hein?
Oui. C'est aussi un truc qui a été étonnant, c'est qu'en Q1, c'est ce qu'a souligné d'ailleurs, ce qui pouvait donner un peu de crédit d'ailleurs à Maldonado, c'est que Maldonado échoue en Q1 piteusement, même s'il y a eu des problèmes, je pense qu'on va y revenir dans quelques instants, mais Bottas fait le meilleur temps. Alors même si en oui. Q1 on sait que avec les pilotes qui repartent pour faire un deuxième essai, etc., ça peut expliquer. Mais l'écart était déjà ça donnait le ton. Des écarts
secondes,
surprenants et des
il y avait deux secondes
assez étonnantes entre les pilotes. Mais au final, Bottas a bien tenu jusqu'à la Q3.
À la 8e place, Kovalainen pour son retour, donc qui a réussi quand même à accéder à la Q3. C'était déjà une c'était une première réussite. Bon, la suite du week-end, malheureusement, a été moins bien. Perez, 7e, Alonso, 6, Hamilton, 5, Hülkenberg, 4, Romain Grosjean, encore une fois, un très bonne qualif de Grosjean, 3e, et une première ligne,
comme
Weber, 2e, derrière Sébastien Vettel. Alors,
Weber, 1er, jusqu'au dernier virage.
Oui,
ce qui était un gros changement par rapport à d'habitude. C'était quand même un gros changement par rapport à d'habitude.
Parce que c'est ce qu'a dit Vettel après la qualif, il a dit je comprends ce qu'a ressenti Marc à Abu Dhabi, parce que c'est vrai qu'à Abu Dhabi, Vettel était bien parti et Marc l'a damé le pion. Et là, c'était l'inverse, en sachant que si on regarde un peu les qualifs, si on prend le meilleur troisième secteur de Weber, s'il égale dans sa dernière tentative son meilleur troisième secteur, il fait la pole avec un dixième d'avance. Et en fait, en réalité, il se retrouve un dixième derrière Vettel. Donc, c'est effectivement c'est plus Weber qui rate la pole que Vettel qui va la chercher.
Bah, je voudrais quand même revenir sur la... Je te laisse finir, Dino.
Non, mais même si Vettel sort le bon tour au bon moment.
Non, je veux quand même dire que Kovalainen, 8e, alors que même s'il a roulé un petit peu avec une Caterham qui connaît les pneus Pirelli, c'est quand même une sacrée performance.
Ouais, c'est bien. Ouais.
Il a fait de très bons essais.
Oui, il a fait de très bons essais.
Très vite était en jambes.
Tout le week-end, il a été bon. Donc c'est pour ça que je parle par rapport à ce que j'ai vu du Grand Prix sur Canal. C'était quand même assez agaçant d'entendre Villeneuve dire qui va galérer, qui est mauvais, qu'on n'est plus dans une Caterham. Alors que quand même, enfin moi je me souviens de Villeneuve quand il a remplacé Trulli. C'était catastrophique. Il avait une voiture capable de gagner des courses et il était dans les derniers quoi. Donc moi je me souviens de ça et il est pas bien placé pour justement qualifier la prestation de Kovalainen. Pour moi, une prestation solide.
Il doit avoir un truc contre les Finlandais, parce que depuis le début de l'année, de toute façon, dès qu'il y a Kovalainen dans la Caterham, il le descend en comparant ses temps et en disant, ah bah, il fait pas mieux que Pic, il devrait être devant, etc., c'est pas un bon pilote. Bah, faut juste lui rappeler quand même, si on regarde un petit peu quand même ce qu'a fait Kovalainen, chez Renault, il est pas à la rue, chez McLaren, la première saison, il soutient plutôt pas trop mal la comparaison avec Hamilton, c'est là, en 2009, où là ça va se dégrader un peu dans un contexte particulier où Kovalainen a déclaré qu'il n'avait pas les stratégies préférentielles, etc., et où dans les faits on voyait qu'effectivement il avait toujours la stratégie un peu plus, enfin toujours la deuxième meilleure stratégie. Et après chez Caterham on oublie juste la saison 2011 où il est pour moi dans la saison l'un des cinq meilleurs pilotes du plateau au niveau de son matériel. Il fait des prouesses avec sa Caterham, il survole le reste. Donc voilà, c'est un peu oublier ça, mais c'est le problème de Villeneuve, c'est qu'il oublie certaines choses et il a une vue immédiate et des jugements à l'emporte-pièce.
C'était la 44e pole position pour Vettel, la 56e pour Red Bull, la 212e pour Renault, à une moyenne de 206,012 km/h. À noter qu'il y a eu 3 pénalités. Jenson Button, 13e, a été rétrogradé 2-3 places pour avoir dépassé sous drapeau rouge pendant les essais. Charles Pic, 21e, a été rétrogradé de 5 places pour changement de boîte de vitesse. Et Gutiérrez, 10e, a été rétrogradé de 10 places pour avoir gêné Maldonado durant les qualifications. Nous allons passer, bien évidemment, au top 10.
Le service après-vente de la F1 vous présente le top 10 de la course.
Rebonjour à tous. Oui, ça fait... Vous allez dire, il va pas bien, Shinji. Eh bien, sachez qu'en un seul petit jingle, vous venez de parcourir 24 heures. C'est la magie du montage, hein, puisque c'est vrai qu'hier, nous étions mardi. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, nous sommes mercredi soir. Hein, la France est qualifiée, hein, pour Rio et pour le Brésil. Et le hic, c'est que, voilà, on a eu le... Comment tu disais, Jackie? Comment t'expliquais super bien dans ton mail?
Ouais, on a eu vraiment beaucoup de chance. Et ça a pompé toute la chance, tous les problèmes qu'on a eu sur l'émission, c'est à cause de toute cette chance qu'on a dû donner à l'équipe de France. Voilà. Pour qu'ils puissent passer.
C'est notre sacrifice pour la gloire de la nation. Donc on aurait pu faire genre oh là là il ne s'est rien passé. Le petit hic, c'est que donc Jackie est toujours là, je suis toujours là, Jenny tu es toujours là,
hein, toujours,
hein. Mais bon, Gus Gus n'est pas là et Dino n'est pas là non plus, mais nous avons récupéré Ben. Bonsoir Ben.
Bonsoir Shinji.
Voilà. Donc bon, fallait bien que j'explique parce que sinon les gens ils se disent c'est bizarre, hein, Dino et Gus Gus ils ont disparu d'un coup. Pouf.
Donc ils ont pas eu de chance, pas.
Oui, c'est vrai. On les salue, et quand même, je tiens aussi à saluer tous ceux qui nous ont suivis quand même en live ce mardi soir, dont certains sont quand même restés malgré toutes les emmerdes qu'on a eues, hein. Donc quand même, bravo à eux. Et sur ce, bah, on enchaîne, on continue l'émission avec le top 10, et bien évidemment, je vais commencer par les pilotes qui ne feront pas partie du top 10 cette semaine. Est arrivé dernier avec 24 points. Oui, il n'y a pas de bulle cette semaine. Paul Di Resta, devant lui, c'est son propre coéquipier, Adrian Sutil avec 29 points. Ricciardo, 40 points. À égalité, on trouve Maldonado et Pic avec 41 points. Max Chilton a marqué 66 points. Juste derrière Gutiérrez avec 67 points. Jean-Éric Vergne, 85 points. Van der Garde et Massa, là encore une égalité à 94 points. Jules Bianchi a quand même réussi à atteindre la 12e place. C'est dommage, il marquera pas de points, mais c'est quand même bien pour Bianchi, hein. Avec 123 points et Mister Eleven, il faisait son retour. C'est Heikki Kovalainen avec 127 points. Alors à noter que parmi nos votes, on a été plusieurs à donner des points justement à Kovalainen. Je lui ai donné un point. Ben, tu lui as donné 2 points. Jackie, tu lui as aussi donné 2 points. Pour son week-end qui avait bien commencé, et malheureusement en course, ça s'est beaucoup plus mal passé.
Bah déjà, il part du mauvais côté de la piste.
Oui.
Il explique qu'il perd des places au départ, on l'a vu avec du vert. Et puis, il est pas si mal finalement. Faut aussi se dire que le départ, ça reste un moment particulier. Que même si certains éléments des voitures sont maintenant standardisés, il y a quand même des subtilités dans le départ de chaque monoplace qu'il faut réussir à appréhender. pour un premier départ, surtout le départ de, d'Austin qui est quand même aussi en montée, en virage en aveugle. Je pense qu'il n'a pas voulu prendre trop de risques non plus. Après la course, ben, il est dans le rythme. Peut-être en manque d'un peu d'agressivité pour essayer de passer, mais bon, ça aussi de chercher la limite de la voiture. Puis deuxième relais, il le dit, après son premier arrêt, il a des problèmes avec l'aileron avant.
Oui, changement d'aileron.
Problème d'appui. Il explique effectivement qu'il soit passé par les stands. Sinon, ses chronos sont pas mauvais.
Problème de
toute façon, on lui demandait
aussi.
Pas à la limite... Pardon ?
Problème de Kers aussi.
Ouais, problème de Kers, effectivement, en plus. De toute façon, s'il avait réalisé un top 5, on se serait dit waouh. Donc un top 10 aurait été le minimum scan. Enfin, c'est ce qu'on espérait. C'est pour ça aussi que Lotus l'a pris. C'est pas si loin, sans ses problèmes, il aurait pu marquer quelques points, je pense. Donc voilà. Et puis pour le reste de son week-end, effectivement, et ses libres qualifs, il se débrouille bien, donc il méritait quelques points d'encouragement.
Oui.
Je suis un peu dans le même type que toi, parce qu'effectivement, moi, je me souviens de Jacques Villeneuve qui était rentré comme lui dans une équipe qu'il ne connaissait pas ou peu, dès les essais, il a été rapide. La voiture est rapide, mais il a été lui-même rapide. On aurait pu s'imaginer que, vu qu'il n'a pas roulé depuis dans une équipe compétitive depuis un moment, il aurait pu être largué, et c'était pas du tout le cas. Donc il avait l'avantage de connaître les Pirelli quand même, donc c'était quand même un avantage. Mais moi je l'ai trouvé très consistant. Je disais ça hier, mais je vais le redire. Mais il a fait quand même un temps à 6 dixièmes en course. Au 52e tour, sur 56 je crois, qui était la course, vraiment à 6 dixièmes seulement de Grosjean, ce qui est quand même pas mal du tout. Bon, il a fait un arrêt de plus, et c'est ce qui lui coûte le top 10. Hein, c'est pour ça que je trouvais très... pour ça que je lui ai mis des points aussi, c'est parce qu'il a fait une belle course, malgré tout. Le départ, et ben, il en a pas fait depuis un an, hein, donc c'est quand même... c'est pas innocent. Et puis, je pense qu'il a pas envie de, enfin, il a envie de bien se montrer pour pouvoir, éventuellement avoir un baquet l'année prochaine.
Oui.
Donc plus tout son environnement qui n'est pas parfait, vu qu'il a pas de, il a un siège en mousse, c'est pas un siège en carbone, donc il n'est pas parfaitement calé dans la voiture. Donc 6 dixièmes en rythme de course, je trouve ça pas mal.
Parce qu'il est à 5 dixièmes en Q3, en Q1 je crois qu'il est à 3 dixièmes de Grosjean, donc les écarts sont pas mal. Hein.
Il ouais, est plus moi
ou moins
je
dans
trouve...
ce quota-là. Je crois que l'écart moyen entre Raikkonen et Grosjean en qualif c'est entre 1 dixième et 2 dixièmes. Donc on est dans des chronos, des écarts totalement corrects, quoi.
Ouais, mais ils connaissaient la voiture. Enfin, Raikkonen et Grosjean connaissent bien la voiture.
Ouais, mais c'est
pas le cas. Ouais, je trouve que c'est correct. Hein.
Puis même en termes de position, huitième, c'est pas. Enfin, Raikkonen n'a pas forcément fait. Enfin, il a parfois fait mieux, mais c'est une place auquel on aurait pu aussi attendre Raikkonen. Donc finalement, par rapport à celui qui remplace, en tout cas sur sa qualif. Bah,
surtout avec son mal de dos.
Oui. Sinon, autre pilote auquel vous avez donné des points, c'est Jules Bianchi, 2 points Jennifer et 1 point Ben.
Oui, bah non, mais voilà, il faut. Enfin, je crois que j'avais déjà dit dans le dernier SAV, j'avais donné des points à Van der Garde, je crois, parce que voilà, Bianchi fait un bon week-end et que il faut aussi remplir la fin du top 10. Donc c'est l'occasion de donner des points à des pilotes dont on parle un peu moins, qu'on voit moins souvent à l'écran. Et, voilà, il fait un bon week-end Bianchi, donc il méritait 1 point.
Voilà, moi c'est pareil, je mets toujours soit la 10e ou la 9e place, je l'attribue toujours à un pilote, soit Marussia, soit Caterham, ou les petites équipes pour les pilotes qui ont fait des bonnes courses.
Et donc à la 10e place, il marquera 1 point, il a marqué 221 points. Au passage, le gagnant du top 10 a marqué 2150 points.
Ouais, quand même.
Ouais. Mais celui qui nous concerne, c'est Jenson Button, et alors il s'avère que aucun de nous ne lui a donné de points. Et je peux vous dire que sur tous les top 10 que j'ai reçus, et j'en ai reçu pas mal vu les circonstances d'enregistrement de cette émission, je ne crois pas avoir vu une seule personne donner 1 point à Button.
Mais t'en recevras peut-être d'autres, parce que si cette émission est... il y a encore un problème, peut-être que demain on enregistrera encore.
Oui.
Et il est pas mauvais, hein. Enfin, il se loupe en qualif, mais c'est pas le seul. Problème de pneumatique. Il part 15e, il finit 16, il finit 10, pardon. C'est moi qui ai mal.
C'est mieux quand même.
Oui, mais voilà, c'est le problème de Button, c'est que en face, Perez a fait un meilleur week-end.
Oui.
Et que j'ai pas mis, enfin j'ai mis Perez un peu plus haut, mais je l'ai pas mis non plus dans la première moitié du classement. Et donc, ben, si je mettais Perez, forcément Button était plus loin et j'avais aussi envie de récompenser des pilotes. Comme Kovalainen ou Bianchi, donc Button a sauté quoi.
Pour ma part, Button, moi je constate que lui, il a un contrat.
Oui.
Que depuis les années qui passent, on a toujours vu Button lâcher l'affaire une fois qu'il avait son contrat et une fois qu'il n'y avait plus d'enjeu dans le championnat. Donc voilà, je pense qu'on est dans ce cas-là. Pour lui, la saison est cuite. Donc il laisse filer. Hein. C'est, je comprends qu'on soit moins motivé. Si on est moins motivé, on fait de moins bons résultats, et donc du coup, moi je l'ai pas mis dans mon top 10. Ça semble, c'est ma logique.
Moi non plus, je l'ai pas mis dans le top 10 parce que tout simplement, il me déçoit un petit peu cette année. C'est un pilote que j'aimais bien, que je suivais un petit peu les années précédentes.
Il est pas gâté par sa voiture quand même.
Ah, ça c'est sûr, oui.
Il est gâté par la nature, comme on dit, mais pas par sa voiture.
Ouais. Ouais, mais on avait quand même Sergio Pérez qui c'est quoi, sa deuxième année, je sais plus.
Troisième.
C'était sa troisième, hein. Donc, il a que 3 ans d'expérience. On a Button derrière qui a quand même pas mal d'années d'expérience. Et, quand tu regardes ce qu'ils font tous les deux, je trouve que c'est pas forcément, t'as pas l'impression qu'il donne le meilleur de lui-même, en fait, Button.
Là, c'est vraiment une histoire d'envie, ce week-end. Hein. C'est vraiment ça, on le voit bien. Hein.
Ouais, mais même les autres week-ends, je trouve, j'ai l'impression que...
En même temps, c'est aussi...
On dirait que, je sais pas, peut-être qu'il en a marre de la F1, peut-être.
Bah, non, ils ont peut-être marre aussi de cette saison, tout simplement. On est quand même à la fin de la saison, et c'est vrai que pour McLaren, ça a quand même été un long calvaire, cette année.
Parce que c'est quand même un top team, hein.
Ouais, et puis il y a plus d'enjeux pour
y a
une
plus
position
d'enjeux.
Championnat, une de plus, une de moins, ils s'en foutent. Enfin, ou pilote, ils s'en foutent. Constructeur, je crois que c'est plié.
Ouais, c'est quasiment plié.
Il
ouais.
Y a plus d'enjeux, quoi. On peut.
Ah, mais quand tu vois Alonso qui se bat, même s'il y a, c'est pareil. On sait bien qu'Alonso, il aura plus de, il a aucun. Il n'y a pas forcément d'enjeu pour eux, mis à part la place constructeur.
Il y a ça.
Tu le vois toujours se battre, en tout cas.
Parce que le championnat pilote, à la limite, qu'il soit deuxième ou dixième, ils s'en foutent. Mais
non,
il
va être champion du monde des autres.
Des mortels. Le premier des mortels.
Voilà, c'est ça. Il sera champion des autres. Je crois que j'ai lu ça quelque part sur Twitter.
C'est même plus Sébastien Vettel. C'est Highlander maintenant. Tu vois, c'est... Bon. Bah, dans ce cas-là, passons à la 9e place. Il a marqué 248 points. Je lui ai donné 2 points, Jennifer lui en a donné 1, Jackie 1, c'est Nico Rosberg. Il partait de loin,
c'est pour ça que je l'ai mis 10e. Il a fait 7, je crois, ou 8, hein.
9.
C'est ça.
9.
9, mais il a pas été transcendant, là, mais je pense que les Mercedes, c'était pas leur circuit aujourd'hui. J'ai trouvé les voitures pendant les essais, même si ce que je disais hier, mais, on n'a pas vu beaucoup Rosberg, même pendant les essais. On voyait surtout Hamilton qui avait beaucoup de problèmes de survirage dans l'entrée de quelques S, hein, et on voyait beaucoup l'arrière sortir. On n'a pas vu Rosberg. Hein, et là en course, on l'a pas vu non plus beaucoup. Et il a peut-être fait une belle course, mais pour remonter, en tout cas, il a dû faire une belle course. Mais j'ai trouvé qu'il y avait des meilleurs pilotes à mettre en avant, en fait.
Moi-même, j'avoue, c'est surtout au classement que je l'ai mis, hein, pour compléter.
Pareil, c'est pour compléter.
Bien, dans ce cas-là, passons à la place suivante. C'est bien, ça va vite, c'est cool, c'est génial.
on s'est entraîné depuis hier. Hein.
Si tu veux, je peux t'expliquer pourquoi j'ai pas mis Rosberg, ça fera durer le plaisir, mais quoique ça va aller vite. C'est, en gros, c'est comme pour Button.
Oui. Passons à la 8e place, il a marqué 406 points. C'est le collègue, justement, de Button, c'est Sergio Perez. Alors, par contre, on lui a tous donné des points, 4 points pour ma part et pour Jackie, 6 points pour Jennifer et Ben.
Ben moi c'est le contexte. Moi, d'abord il mène Button, et puis moi je me souviens que l'an dernier quand il a été officialisé chez McLaren, on l'a plus vu chez Sauber.
Oui.
Il a plus rien fait, et du coup on pouvait craindre que le fait qu'il soit sans baquet, psychologiquement, on est en fin de saison, il sait qu'il va avoir du mal à en trouver un, même si
il en reste plus beaucoup. Et en plus il a dit qu'il voulait pas un baquet de fond de grille.
Bah c'est ça, Marussia Caterham, il en veut pas.
Comme Massa, il disait ça aussi. Hein.
Ah mais c'est Williams, Williams c'est quand même un nom quoi.
Ils sont en fond de grille hein.
Oui, je suis d'accord.
ils ont histoire mais voilà.
Aujourd'hui, ah ils sont pas forcément que en fond de grille hein, ça dépend laquelle tu prends.
Oui.
Mais voilà, Perez dans le contexte, je trouve qu'il voilà, il a fait un week-end, il a répondu présent tout simplement, alors qu'on aurait pu penser qu'il le serait pas. Il essayait d'en faire trop, d'en faire des caisses pour justement avoir un volant quelque part, se montrer. Et voilà, il est devant Button tout le week-end, au moment où ça compte, qualif, course, donc voilà, il méritait pour moi. Puis c'est aussi pour le contexte dans lequel il fait sa course, parce que sinon c'est pas exceptionnel, pour une McLaren c'est pas forcément brillant dans l'absolu, enfin même si cette saison c'est des résultats normaux.
C'est plus brillant qu'aujourd'hui que ça ne l'a été, hein. Je les trouve un peu plus en forme aujourd'hui les McLaren que
qu'en début de saison.
Comme même en milieu de saison où ils avaient du mal à se qualifier en Q3, là ça semble beaucoup plus régulier.
En même temps, est-ce que c'est pas cette fameuse force de McLaren, c'est souvent une des équipes qui évolue le plus dans le bon sens au fil de la saison et termine souvent avec, enfin pas tout le temps mais parfois avec des très bonnes voitures en fin de saison. Là forcément comme ils partent de plus loin, c'est plus compliqué.
Alors peut-être que c'est lié au circuit aussi, parce qu'on parlait beaucoup du problème de McLaren, qui était un problème de suspension qui n'arrivait pas, enfin c'était toujours trop dur. Là, comme on est sur un circuit qui est neuf, qui n'a pas de bosse encore, ils peuvent rouler très très bas, rouler dur et ne pas avoir les inconvénients de cette rigidité. C'est vrai qu'on saura mieux au Brésil la semaine prochaine, enfin même c'est à partir de vendredi.
Vendredi.
On saura mieux si ils restent constants, s'ils ont bien développé la voiture ou si c'était un épiphénomène lié au circuit quoi.
Ah, si c'est lié au boss, on sera effectivement fixé à Interlagos, hein. Y a pas de doute
là-dessus. Ah oui, là-dessus, ça, là, c'est clair.
le boss, c'est le test ultime ça.
Bon après oui, s'ils développent, c'est le dernier Grand Prix, quoi.
Mais c'est vrai que Perez, il a été quand même très, très consistant à ce Grand Prix-là, suite à l'annonce de son non-renouvellement. Il veut se montrer sous ses meilleurs jours et peut-être aussi montrer à Telmex, parce que c'est peut-être aussi ça qu'il veut montrer, qu'ils peuvent investir sur eux. Peut-être que McLaren posait des grosses contraintes, on va dire pour de contrat et d'exposition à Telmex ne voulait pas. Mais peut-être que sur une autre équipe, ce sera plus facile à placer. Que je pense à Sauber, même à Lotus, hein, parce que Maldonado est favori, mais pourquoi pas un Telmex aussi, hein, et donc un Perez chez Lotus. Hein, je pense qu'il refuserait pas non plus. Donc il a fait vraiment un bon Grand Prix, agressif, et puis avec la voiture qu'il avait, il a eu septième en course, ça méritait. Moi j'ai mis 8 parce que bon, j'avais d'autres personnes devant à placer.
À la 7e place, il a marqué ses premiers points de sa carrière, et d'ailleurs, que ce soit dans le vrai classement et dans le classement du SAV, c'est Valtteri Bottas avec 800 points.
Alors justement, une des personnes que je devais placer avant Perez,
c'est Bottas.
C'était Bottas. Je l'ai mis 7e et c'est vrai que lui, il a été, alors pour le coup, effectivement, de la même manière, c'est toujours la même explication que j'ai, mais je pense que c'est important. C'est, il a été signé, il sait que l'année prochaine, il est chez Williams. La voiture a l'air, depuis qu'ils ont enlevé les Co-Honda, a l'air d'être beaucoup plus constante. Et il arrive à, je pense, en fin de développement de cette voiture-là, et il arrive à bien la connaître maintenant. Et il arrive à réaliser, il a déjà d'abord réalisé une super qualif, on en a parlé hier. Et par rapport à Maldonado, qui lui est en recherche d'un nouveau contrat, il est beaucoup plus serein. Et donc, c'est l'explication que j'en ai, il fait une super course, quoi. Bon, il part devant par rapport à Maldonado. Et il fait pas d'erreur et il réussit une belle course en terminant 8e.
Et alors Ben, justement, parce que faut savoir que nous on l'a mis 7-8e, mais Ben, dis-nous.
Je l'ai mis 3 moi.
Tu l'as mis 3?
Ouais, en fait je me suis dit j'exagère, et puis j'ai un peu été voir les commentaires sur l'article du top 10 sur FanF1, et il y en a des qui l'ont mis plus haut. Donc je me suis dit ça va, je suis pas tout seul.
Bah c'est sa meilleure course.
Mais il fait une très bonne course. Et puis moi, juste pour revenir sur la sérénité, c'est vrai que, enfin, Dino et vous en avez tous parlé hier sur Maldonado, mais c'est vrai que dans la réaction qu'il a après la qualif, Maldonado, on sent qu'il est pas serein sur son avenir, que son avenir est pas scellé. Et donc forcément, par rapport à ça, Bottas, lui, il l'est. Donc c'est vrai que t'as un poids qui t'en en moins sur les épaules, parce que c'est vrai que Bottas, il débute, il a qu'une saison dans les jambes, son avenir, pour des raisons X ou Y, plus financières que sportives d'ailleurs, était un peu mise en doute. On sait que Hülkenberg, dans la même situation, s'est fait mettre à pied très très tard. Donc c'est des choses qui peuvent jouer. Effectivement, là maintenant, il est assuré sur son avenir, il est plus serein. Il fait une très belle course, il est très bien en qualif. Il fait les qualifs, j'ai plus les chiffres exacts, mais je vais les retrouver.
9e.
Il fait 9e et il termine 8 en course. Voilà, il a tenu son rythme, il a pas été largué, il a tenu les gens derrière. Sans bouchonner non plus, voilà, il est effectivement là, Williams sans Corda marche beaucoup mieux. C'est quand même un comble, c'est que tout le monde veut mettre pour que la voiture fonctionne et eux c'est l'inverse, mais donc voilà, c'est pour ça que moi je l'ai et puis c'était pour pas tout le temps mettre les mêmes devant. Enfin, déjà que forcément on retrouve les mêmes, donc là Bottas, sa performance, surtout par rapport à Maldonado, qui m'a passablement énervé dans sa réaction de samedi, ce qui a aussi joué sur la troisième place de Bottas. J'ai voulu marquer les gars encore plus, mais il était dans mon top 5 quoi qu'il arrive. Donc
En plus, c'est plutôt pas mal de le mettre en avant cette semaine vu qu'il marque ses premiers points, parce que je trouve, personnellement, c'est un des pilotes, peut-être plus encore que des pilotes Caterham ou Marussia, c'est un des pilotes qui a été le plus sous le radar, je trouve, toute cette saison.
Mais on en a beaucoup parlé avant le début du championnat, Bottas.
Ouais,
il est arrivé,
parlé
c'était
avant,
le rookie à pas manquer, quoi.
Mais pourtant, regarde, si tu réfléchis quand tu repenses à toute cette saison, c'est sans doute un des pilotes dont on a le moins parlé.
Mais il a pas la voiture. Il a pas la voiture et il fait le boulot.
Oui, et puis c'est un pilote qui est très discret.
Ce que je veux dire, c'est que d'autres n'ont pas la voiture non plus, on en a beaucoup plus parlé.
Parce que c'est Williams, justement. C'est peut-être parce que c'est Williams, c'est que on s'attendait. L'année dernière, ils avaient quand même animé un meilleur niveau, bon, pas extraordinaire, mais quand même un meilleur niveau par rapport à cette année. Et c'est peut-être pour ça qu'on l'attendait un peu plus. Et
Ah oui, parce que j'ai l'impression que même on a plus parlé d'un Vandergaard, d'un Chilton que de Bottas, quoi.
Ouais.
Mais un niveau dessus,
ouais,
quand même.
À part au Canada où il a fait bien en qualif et en course, forcément il s'est effondré. Mais
C'était le hasard, hein, la qualif quand même. Hein. Il pleuvait, voilà, il était là.
Ah oui, mais n'empêche qu'il fallait le faire. Effectivement, en course, on savait que ça tiendrait pas pour des circonstances. Mais la qualif au Canada sous la pluie, faut quand même sortir le tour. Effectivement, il y a les circonstances qui aident. Mais c'est vrai qu'à part à ce moment-là, on en a pas beaucoup parlé.
Ouais, l'expression que tu utilises, Shinji, sur le fait qu'il soit sous le radar, il était vraiment. Quand Massa a été signé et qu'ils ont validé Bottas, c'était presque une surprise.
Oui, c'est vrai que...
Parce que j'aurais pu très bien comprendre que Massa soit signé et que le deuxième pilote ne soit pas signé.
Oui.
On aurait gardé Bottas, mais en plan B, on aurait pu trouver que Perez, par exemple.
Ou même un duo Massa-Maldonado, hein.
Ouais, mais Maldonado, il voulait partir.
Oui, voilà. C'est ce qu'il
dit. C'est plus ça.
Oui.
Ouais. Ouais, je pense que c'est vrai, quand même.
Mais c'est dingue, là, cette discrétion, quasiment toute la saison, quoi.
Et puis j'ai vu une ou deux interviews de lui, je sais plus, c'est sur Sky, la chaîne Sky, et... Enfin, il parle pas beaucoup, il est un petit peu...
C'est pas un grand bavard.
Il est finlandais, quoi.
Moi, je l'ai croisé à Francorchamps, il est pas bavard. Hein. Il répond à tes questions, il est très gentil, hein. Il est très sympathique, mais c'est vrai que s'il peut te faire une réponse en deux mots, il te la fera en deux mots, il va pas te la faire en 10.
C'est le petit frère de Kimi, en fait.
Il a l'air de plus parler, quand même.
Mais disons qu'il a plus conscience qu'il faut qu'il joue le jeu, quoi. Mais c'est pas forcément un plus grand bavard. Au contraire de Kovalainen, qui lui parle beaucoup plus et est très sympathique aussi.
À la sixième place, il a marqué 876 points. Je lui ai donné 8 points, comme Jennifer. Ben et Jackie lui ont donné 10 points. C'est Lewis Hamilton.
Mais Lewis Hamilton, en fait, chez Mercedes, c'est un peu l'inverse d'Abu Dhabi. Si on caricature un peu, c'est Hamilton qui pourtant, pendant les essais libres, il n'a pas arrêté de se plaindre. On n'a pas arrêté de lui dire où il pouvait récupérer du temps sur Rosberg qui était plus rapide dans certains secteurs. En course, il s'est plaint aussi, mais voilà, il part 5e, il finit 4. C'est l'inverse d'Abu Dhabi, là où Rosberg il est absent en qualif et puis une course à la Rosberg.
Ouais, c'est ça, parce qu'il a fini 4e, et C'est quand j'ai voulu faire mon top 10, justement, je me suis posé la question où était classé Hamilton, et j'ai pas de souvenir de sa course, donc effectivement, il a pas... Enfin, tu te demandes comment il arrive à la quatrième place.
Hormis ses messages radio virales, on l'a pas effectivement beaucoup vu.
Ouais.
Il y a quand même vraiment des choses dans messages radio qui sont vraiment drôles, c'est que il râle parce qu'on lui dit des choses, on lui informe des choses, et après il râle parce qu'on ne lui dit plus rien.
Il y a un caricaturiste anglais sur un site en anglais qui s'est moqué de ça, justement. Dans le dessin,
moi, je voyais vraiment ça mal engagé, voyant la voiture qui partait dans tous les sens dans les rapides, je me suis dit, c'est pas bon, il a changé le châssis, parce que l'autre était fissuré, ça va être, enfin, il va faire que râler, il voit bien que Rosberg aussi n'est pas un... c'est pas un moyen, hein. Ça fait partie peut-être pas des, il est pas dans la même catégorie sans doute à mettre que Vettel et Alonso, mais c'est quand même la catégorie en dessous où je mettrais Grosjean, Rosberg, Hamilton, il devrait être dans la catégorie dessus, c'est ce qu'il pense lui, et visiblement il a du mal à avec cette voiture aujourd'hui, bon.
Mais c'est vrai que le premier relais, il arrête pas de se plaindre du grip, pas d'adhérence, et après ça a l'air d'aller mieux.
C'est vrai qu'après, pendant la course, il était un peu entre deux eaux, entre le groupe des trois premiers et puis Alonso Hülkenberg, ça aide pas. Rien à rajouter sur Hamilton?
Non, plus rien.
J'ai bien aimé les couleurs de son casque.
C'était noir, non, il me semble.
C'était noir et rouge, un rouge un peu bordeaux.
C'était hommage à Michael Jackson, je crois.
Ouais. Bon, le dessin sur le dessus était très moche, mais ouais. Les couleurs étaient sympas.
Mais ils étaient pas mal à avoir des casques spéciaux, tout ça. Je disais limite plus qu'à Monaco.
Mais il y avait donc, attends, si on fait le compte, il y avait Hamilton, qui avait un particulier. Ouais. Vandergaard en avait un aussi, je pense.
Ouais, je crois aussi.
Il était pas dégueulasse, d'ailleurs.
Grosjean.
Grosjean avait un qui était pas vilain non plus.
Vergne aussi.
Une originalité crasse, hein, à côté avec le drapeau brésilien, l'autre le côté américain, hyper original.
Waouh.
Ouais, c'était un concours en fait. Et fallait associer les deux thèmes parce qu'il va utiliser le même au Brésil. À mon avis, il y avait des casques plus originaux que celui-là, mais bon.
Vettel, on avait un par séance presque.
Ouais, Vettel. Oh, mais Vettel, c'est presque tellement habituel que.
C'est le jour où il change pas qu'on se pose des questions.
Voilà, sinon, Kovalainen a sorti le rose. Il a piqué les couleurs de Franck Montani.
Ouais.
Ouais.
Ça fait un paquet de casques, hein, quand même.
Mais oui, c'est pas mal. Mm. Perez et Gutiérrez aussi avaient un casque spécial.
Mm. Grosjean disait que le casque qu'il utilisait, c'était le casque 2014.
Ah bon?
Et justement, tant qu'à faire à utiliser un casque 2014, autant lui mettre une couleur un peu sympa, voilà,
parce que
pour changer.
Dessus, il me semble qu'il rendait hommage à Steve McQueen.
Steve McQueen.
Ouais, ouais, mais la forme du casque.
D'accord, ok. Ah oui, effectivement, je l'ai lu, t'as raison, oui.
Au niveau aérodynamique, c'était pour la voiture de 2014.
C'est ça.
Ils en ont 6 par an, apparemment. Enfin, Grosjean en reçoit 6 par an. Vettel doit en avoir 6 par Grand Prix.
Oui, c'est ça, voilà. Allez, on arrive à la première moitié du classement, à la cinquième place. Il a marqué 980 points. C'est Fernando Alonso.
Moi, j'ai failli le mettre plus bas.
C'est vrai que tu l'as mis que cinquième.
Ouais, il m'agace en ce moment. Le personnage m'énerve énormément. Donc,
tu crois qu'il avait pas vraiment mal au dos?
Ah non, mais il a. Non, mais pas que par son mal de dos, mais tout le reste, je trouve qu'il est assez. Il est assez agaçant. Il faut qu'il fasse gaffe parce qu'il est en train de prendre la grosse tête et ce sera plus très aérodynamique, je dirais.
C'est pour ça qu'ils mettent des nouveaux casques.
Ouais, c'est ça.
Sur le dos, c'est vrai qu'à mon avis, il en a un petit peu rajouté. Hein.
Oui.
Je pense qu'effectivement, il s'est fait mal. Hein. Attention, je dis pas que. Mais je pense qu'il a un peu joué là-dessus quand même, parce que je pense qu'Alonso est quand même un peu tactique, un peu politique. Hein. Au moment où Raikkonen se fait opérer du dos, je pense que c'était de bon ton pour lui de dire « Moi aussi j'ai mal, mais moi je cours
». Ouais, et puis il a bien montré, je sais pas si vous avez vu, mais il a bien montré qu'il avait des straps.
Ouais.
Il aurait pu mettre des straps de couleur chair. Hein. Il les a mis bien noirs hein, pour qu'on voit la différence qu'il y avait
des
straps.
Ouais, il y avait des noirs et des vertes.
Ouais, il fallait que ça se voit. Hein. Il fallait bien que ça se voit.
Ouais.
Et pas corporate, il aurait dû en mettre des rouges.
Ben, moi, je l'ai mis troisième.
Oui.
Je me suis surpris même à le mettre troisième. Parce que bon, je suis pas un fan du personnage. Je trouve que comme Jenny, j'ai beaucoup de mal avec sa manière politique de gérer l'équipe pour qu'elle vienne à lui. Et je trouve que vis-à-vis de Massa, qui est pas un mauvais pilote, je trouve ça dommage toujours. Enfin, vis-à-vis du deuxième pilote en l'occurrence, ou de l'autre pilote quand ce sera Raikkonen l'année prochaine. Et donc habituellement, enfin vu le contexte qu'il y avait, à savoir que Raikkonen est signé chez Ferrari, qu'il est allé chez Ferrari justement pour discuter avec Domenicali et tout ça, et que suite à ça, la chronologie fait que, alors je dis pas que c'est un complot, mais la chronologie fait que il a dit à Lotus qu'il ne voulait plus courir pour se faire opérer. Le contexte était particulier, et j'aurais pu très bien imaginer, et je pense que c'était dans le domaine du possible, que Alonso décide que lui aussi il allait faire son Raikkonen en ayant mal au dos, et ne pas jouer du tout la course. Je pensais vraiment qu'il n'allait pas jouer la course, parce que justement pour montrer à Montezemolo que le patron c'était lui, et que si il avait mal au dos, il pouvait tout à fait faire que Ferrari perde la troisième place en l'occurrence.
Non, parce que moi je vois totalement ça dans le sens inverse, tu vois.
Et au contraire, il m'a surpris. Il a fait une super course, et c'est pour ça que je l'ai mis troisième, parce que il a été très malin sur le dernier virage, le premier virage du dernier tour, et où effectivement Hülkenberg a fait un freinage tardif, et lui a fait un freinage pas du tout tardif. Il a freiné bien avant pour pouvoir le repiquer juste derrière, et ça c'était vraiment très malin. Je sais pas si c'était fait exprès ou si c'était Hülkenberg qui a vraiment raté son freinage, mais c'était en tout cas très malin. Vraiment comme Alonso, on l'aime le voir en course, sans faire de vraiment de politique. Donc c'est pour ça que je l'ai mis troisième. Mais pourquoi tu dis que tu vois la manière complètement différente justement?
Mais moi sur le dos justement, je le vois qu'il a, pour moi il en a un petit peu rajouté quand même.
Ah oui.
C'est dans le sens où justement il a voulu montrer que même en ayant mal au dos, lui il roule. Là où un Raikkonen décide de arrêter, de pas rouler et de se faire opérer, il doit se faire opérer Raikkonen. Hein, le problème n'est pas là, mais il a avancé son opération suite au problème de non-paiement avec Lotus. Je pense qu'il n'y a pas forcément avoir Ferrari derrière.
Oui. Hein. Oh, je pense que c'est joué. Ça, je pense pas que ce soit innocent.
Il y a peut-être aussi Ferrari.
Non, moi je pense effectivement qu'il pense qu'il a avancé d'abord aussi parce que Lotus ne le paye pas, parce que il veut être sûr d'être bien préparé, bien remis pour son retour chez Ferrari. Donc voilà, c'est tout un tas de choses. Ils font que Raikkonen a décidé de pas rouler. Et que, pour moi, Alonso, justement, a un peu joué là-dessus, avec son dos, en disant, moi j'ai mal, mais je roule. C'est aussi, finalement, un message à la direction de dire que, voilà, lui, il est là, quoi qu'il arrive, quoi.
Ça sera oublié l'année prochaine, ça. Il le sait, hein. Non, moi, je pense qu'il avait, il a surjoué, en fait, le problème de dos. Surtout, il y avait 15 jours entre, donc je pense qu'en 15 jours, ça pouvait bien se remettre, hein. Même si évidemment on ne sait pas quels étaient les dégâts sur son dos, mais il a été toujours très très rapide. Il aurait eu mal au dos, il aurait sûrement une baisse de régime, une inconstance. Il a été au top toute la course.
Après, on ne sait pas s'il a eu des injections ou ce genre de choses, parce que si on regarde la course de Raikkonen à Singapour, on sait très bien qu'il avait mal au dos en qualif et qu'il était, il avait des piqûres de morphine avant de partir. Je crois que c'est de morphine.
De cortisone,
pardon. Ouais. Ouais. Avant le départ du Grand Prix, et il fait une super course aussi. Donc, il y a peut-être aussi de ça. Maintenant, sur les strips ou straps. Voilà, le fait que ça revienne régulièrement sur le tapis, je pense que peut-être, effectivement, il y a un petit peu de com là-dessus, effectivement, ouais. Mais après, il fait une très belle course, effectivement, des belles manœuvres, les deux Sauber, il les a littéralement enrhumés.
Ouais, et puis il a doublé plein de fois à cet endroit-là.
Ouais.
Il s'était bien entraîné et quand il ça comptait vraiment pour aller pour Hülkenberg pour garder cette cette cinquième place, il a pu refaire la même qu'il a fait pour les deux autres quoi. Non, vraiment vraiment c'était très très bien. Vraiment moi j'ai trouvé une bonne course.
Je pense qu'il je sais pas si j'ai plus sa position après le départ, mais j'ai pas l'impression qu'il fait partie des gens qui en perdent malgré le fait qu'il parte du côté sale puisqu'il part sixième. Donc de nouveau, je pense qu'il prend quand même un départ correct, qui facilite après sa course.
Il a gagné une place, il était sixième en qualif.
Oui, mais c'est ça. Il part sixième, il finit cinquième à l'arrivée, mais je sais pas si après le premier virage, il a perdu des positions ou s'il en a gagné ou s'il est stabilisé.
Au premier tour, il est sept.
Donc il a perdu une position.
Ouais, Perez l'a doublé.
Ouais. C'est finalement logique quand tu vois le, enfin si tu regardes les autres pilotes.
Certains ont plus perdu.
Oui, certains ont plus perdu, mais c'est logique qu'il en ait presque logique qu'il en ait perdu au moins une quoi.
Oui.
On en reparlera avec Weber.
Ah bah justement, transition parfaite, puisque le quatrième du classement, oui le quatrième, avec 1061 points, c'est Mark Webber, qui pour le coup, je pensais que comme d'habitude il allait faire un mauvais départ, il fait pas forcément un mauvais départ.
Non.
Mais, voilà, il est du mauvais côté.
Il est du mauvais côté, et quand il veut se rabattre, il a déjà Grosjean.
Voilà.
Donc il sait pas bouger, donc forcément il est obligé de rester sur l'intérieur pour le premier virage, et là il se refait passer par aussi par Hamilton. Et non, parce que moi je me suis dit effectivement pareil, sur le coup tu te dis ah Weber il se loupe encore, mais en fait non, il part bien Weber, oui. Il est juste pas du bon côté.
Et alors là faut dire c'est très disparate, parce que alors moi je l'ai mis troisième, Jennifer tu l'as mis deuxième, Ben par contre tu ne l'as mis que huitième, et Jackie tu l'as mis sixième.
Il est mis huitième finalement. En fait, Weber, voilà. Il a bougé de place tout le temps dans mon classement. Donc effectivement, je l'ai mis huitième. C'est huitième ou cinq en fait, tu vois, sur Weber.
Il y a quand même une belle lutte avec avec Grosjean. Même si ça a fait très l'élastique.
Moi, j'ai voulu le punir en fait. Ça fera l'objet de mon premier drive-thru. Je sais pas si on a le droit d'en mettre plusieurs, mais j'en ai deux en fait. Et il y en a un pour Weber. Parce que ça fait un moment qu'il traîne sa peine. Il n'arrête pas de dire que, enfin, depuis qu'il a annoncé qu'il prenait sa retraite, il n'arrête pas de dire qu'il est plus motivé, que c'est compliqué de faire de la F1. Alors je trouve ça un petit peu dommage de la part de quelqu'un qui est là depuis quand même un moment et sachant qu'il y a toujours plein de gens, il y a plein de gens qui veulent rentrer en F1 et de voir que une des meilleures équipes, enfin la meilleure équipe aujourd'hui, a un pilote qui n'a plus envie de rouler. Donc voilà, je trouve ça dommage et ça a été, et c'est surtout c'est suite au podium en fait que j'ai voulu lui mettre un drive-thru et donc le punir dans mon top 10. C'est pendant l'interview de Mario Andretti c'est quand même pas mal qu'il vienne faire l'interview même si c'est pas son métier. Hein. Donc le protocole c'est on pose une question au premier, on pose une question au deuxième, on pose une question au troisième et après on repose une question au premier. Ça a toujours été comme ça.
Oui, toujours été comme ça. Ouais.
Dans tous les depuis cette année. Une fois que Weber a répondu à sa question de manière très courte, hein, et je reviendrai avec Porsche l'année prochaine, il s'est barré. Du coup, Andretti n'a pas pu poser la dernière question à Vettel. Donc voilà, c'est vraiment, il est vraiment pas content d'être là. Il le fait savoir, il se barre. Voilà. Et pour ça, c'est pour ça que je lui mets un drive-through.
Ouais, il risque de partir aussi vite au Brésil si jamais il est sur le podium, parce que lundi matin, il doit être chez Porsche, donc...
Oui.
Ouais, mais il va pas pouvoir rouler, parce qu'il a son contrat jusqu'au 31 décembre.
Non, Red Bull l'a libéré plus tôt, apparemment.
Ah oui, d'accord.
Oh, ça va, ils ont fait une fleur.
C'est pour ça qu'il va aller chez Porsche, effectivement, lundi prochain, pour pas s'il roule
en
déjà,
Allemagne,
d'ailleurs, mais...
En Europe, en tout cas, on sait pas.
Normalement, oui, je pense.
Et ils sont à Monza, je crois, cette semaine-là, Porsche.
Mm-hmm. Ah oui, donc oui, il va pas non plus trop tarder.
Non, il va tout de suite partir.
Sinon, d'autres opinions sur la course de Weber?
Mais non, en fait, moi, sincèrement, j'ai un top 10 avec Weber 8e, avec une flèche qui le met 5e. Donc, c'est pour le coup...
Alors moi, je l'ai mis 2e parce que... C'est par rapport à Vettel, donc il devrait dire merci à Vettel que je l'ai mis deuxième en deuxième position, parce que je me suis dit qu'après autant d'années à côté de Vettel, en fin de compte, ça devait pas être forcément évident pour Mark Webber de rouler, d'être le coéquipier de Vettel quand tu vois que les courses parfaites que fait Vettel tout simplement. Donc je me suis dit, il a beaucoup de courage d'être.
C'est des points de pitié.
C'est ça en fait, exactement.
Sur les qualifs dernièrement, il est plutôt pas mal, Weber. Hein.
Oui,
il s'est souvent loupé au départ.
Là, il a fait une super qualif.
La fois où il en fait un bon, il faut qu'il sorte du mauvais côté, il soit sur une piste où c'est hyper important d'être de l'autre côté. Quoi. Il a vraiment pas de bol, parce qu'il faisait le départ qu'il faisait dimanche, mais depuis la pole. Il aurait pu, parce que je pense qu'il fait une petite erreur dans son tour qualif. Il aurait pu contester à Vettel, mais je pense qu'il est bien mis pour gagner la course.
Non, mais il a fait une très bonne course, ouais, effectivement.
Donc voilà, derrière, il met la pression à Grosjean avec des écarts qui jouent un peu au yo-yo.
Je
pense qu'il a retenu la leçon de Suzuka. il espère que ça va passer. Voilà, ça, malheureusement, ça passe pas pour lui. Donc il fait pas de mauvaise course. Donc voilà.
Alors, en ce moment aussi, en plus, Weber, il communique beaucoup avec Red Bull sur le fait que Vettel, c'est un super pilote. On n'aurait pas du tout imaginé ça après la Malaisie, hein, qu'il puisse dire ça.
Non, mais il est gentil avec tout le monde, Weber. Hein. Il fait des compliments à Grosjean aussi.
Il fait des compliments à tout le monde. On a l'impression qu'il veut avoir une victoire de pitié. Vraiment, c'est...
Eh, dimanche, c'est la quille, hein.
Ouais, et Vettel a dit qu'il n'aiderait pas.
Ah bah non.
Mais une image amusante qui m'a fait rire. Bah non, elle est surprise, il faut la remettre dans son contexte, sinon on ne l'a pas. Mais c'est, je crois que c'est avant le départ de la course. On a une photo de Weber qui est au calme, dans le stand, mais c'est dans le stand Toro Rosso. Ouais. Bah non, il faut évidemment la remettre dans le contexte, mais c'est vrai que... je l'ai vu, je sais plus, sur un compte Facebook d'un Twitter, pardon, et c'est vrai que le contexte était celui-là, quoi, mais elle m'a fait sourire.
Plus de penser à Elder et surtout à sa femme. Plus qu'une course.
D'ailleurs, c'est pour cette raison aussi que je l'ai mis deuxième, parce que j'ai trouvé...
Non mais c'est...
Merci Madame Elder
c'est de
m'avoir
pitié.
Découvert.
Dis-le, c'est de la pitié, voilà.
Non, c'est pas de la pitié, non, je l'avais pas vu dans ce sens-là, tu vois, Weber. Et effectivement, Madame Elder a tout à fait raison.
Et donc on arrive au podium, et à la troisième place pour 1071 points, donc ça s'est pas joué à grand chose. D'ailleurs, faut le dire, je crois que quelques heures avant la fin des votes, Weber était encore troisième, hein, mais finalement c'est Hülkenberg qui finit troisième du classement cette semaine. Alors moi personnellement je l'ai mis cinquième, Jennifer et Jackie vous l'avez mis quatrième, Ben toi tu l'as mis sixième.
Oui, mais j'avais peur de me répéter si je le mettais trop haut. Et puis il fallait que je mette Bottas devant. Non, bah encore une belle course.
Oui.
Ça, effectivement, on va quand même se répéter, mais que ce soit en qualif ou en course, on a presque envie que Quantum arrive avec son argent jusqu'au douteux pour que Hülkenberg peut-être un bon volant l'an prochain, parce qu'effectivement, du coup, chez Lotus, on est quand même pas trop sûr du niveau matériel, mais...
L'argent n'est toujours pas là. Hein. Je veux dire, on enregistre cette émission sur deux jours, on est mercredi soir, l'argent n'est toujours pas arrivé, visiblement.
On va peut-être avoir un breaking news de Gus Gus, on sait jamais. Hein.
Oui.
Non, moi, sincèrement, Quantum, j'y crois plus, mais voilà.
Ah, plus personne n'y croit, hein. Même...
Mais il y a plus que Mansoury Jas qui croit. Hein.
Oui.
Mais attendez, on croyait pas au bleu hier. Donc si ça se trouve, on va enregistrer encore demain soir et Quantum aura signé.
Oui, mais à mon avis, hein, l'équipe de France a bouffé toutes les nouilles du monde pour passer à la Coupe du Monde.
Ouais,
on en a plus.
C'est vrai.
Ce gars-là, là, je trouvais qu'il parlait beaucoup pour quelqu'un qui, enfin, c'était à Abu Dhabi, je trouvais qu'il parlait beaucoup pour quelqu'un qui n'avait pas mis encore un seul dollar dans l'équipe. Et on voyait Boullier qui disait rien, qui attendait. Maintenant, il commence à dire qu'il n'y croit plus. Donc voilà, je pense que c'est fait, ça ne se fera pas. C'est dommage pour Hülkenberg.
Ils étaient là tout le week-end, c'est ça qui était arrivé. Ils étaient chez Lotus tout le week-end.
Ah oui, mais ils n'arrêtent pas de faire des annonces. C'est vrai que la dernière fois, lors du dernier Grand Prix, Boullier était beaucoup plus prudent. Et il a bien fait. Non, c'est triste, quoi, parce qu'il va probablement... J'utilise le conditionnel, n'est-ce pas Jean-Louis ? Probablement aller soit chez Force India, soit chez Sauber. Comme a dit un commentaire chez FanF1, ça tourne en rond, quoi.
Ouais. Bah moi, je pense que Force India est la piste privilégiée, parce que chez Sauber, il est payé parce que Ferrari, elle a payé à la dernière minute, apparemment.
Oui.
Donc je pense que, de ce point de vue-là, il préférera retourner chez Force India.
D'autant plus qu'en retournant chez Force India, il va se faire payer son arriéré de 2012, et en plus, il va se faire payer en avance. Donc voilà, je pense que bon, il va y avoir de plus en plus de contrats comme ça où on demandera à être payé en avance. Et du fait de Lotus, du fait de Force India, du fait de toutes ces équipes qui ne payent pas très bien, Donc voilà, moi je pense. Bah Hülkenberg, moi je l'ai mis 4. Hein. Mm-hmm. C'est vrai qu'il a fait une belle course. J'aurais bien aimé qu'il double Alonso parce que ça aurait, bah, ne serait-ce que pour la course à la troisième place, ça aurait été un petit peu plus serré au Brésil. Là, ça va être très compliqué au Brésil, surtout avec la pluie qui s'annonce. Ça va être dur de ramener autant de points pour Lotus. Donc moi, belle place. Il a fait une course solide, comme il en fait depuis 6 ou 7 Grands Prix. Il est du calibre de Grosjean, je pense que ça aurait été un duo très équilibré, malheureusement. Et c'est pas comme ça que ça va se faire.
Ah, c'est sûr que ça aurait plus d'allure que Grosjean Maldonado. Hein.
Ah oui.
Je parle pour Maldonado, là, parce que Grosjean, effectivement, là, je pense qu'il a.
Ouais, Maldonado, pour moi, c'est très grave que Lotus signe. Enfin, pour Grosjean, c'est très grave. Parce que Maldonado, lui, il va être en position de force. Hein. C'est lui qui a les sous. Donc, quand dans une entreprise, la personne qui a les sous, c'est lui qui décide. Hein. C'est toujours comme ça. Et je pense
si c'est surtout Romain qui ramène les résultats, ça peut s'inverser.
Ah, ça change rien. Il y a des équipes en IRL avec des propriétaires pilotes. Ils sont jamais virés. Hein. Mm. C'est toujours le deuxième pilote, enfin l'autre pilote qui varie. Donc voilà. Moi, je pense qu'on arrive dans cette situation. Là où il décide de poser ses valises dans une équipe là en l'occurrence Lotus, ça pourrait être une autre, ça a été Williams. Je pense que ce sera pas une bonne idée de la part pour Grosjean de rester trop longtemps chez Lotus. Faudrait qu'il change en 2015. Parce que s'il se fait, imaginons le cas le plus extrême. Je connais pas du tout les réglages qu'ils apprécient, mais imaginons que le Maldonado veut une voiture qui soit survireuse et que Grosjean veut une voiture qui soit sous-vireuse. Lequel gagne? Vous voyez que Lotus, ils vont avoir les moyens de développer deux voitures différentes. Ça va être celle de Maldonado qui va gagner.
Mmh. Enfin, sur 2014, c'est surtout Grosjean qui va avoir une voiture qui va mieux lui convenir, a priori, que Maldonado.
C'est pour ça que
la voiture est déjà en développement.
Ouais, je suis d'accord.
Grosjean
mais c'est
est déjà dans la maison.
Ça s'est passé comme
après,
ça.
Après, sur le long terme, peut-être.
Ça s'est passé comme ça avec, souvenez-vous, avec Bourdais et Vettel. Bourdais avait une voiture qui lui convenait en début de saison. Au milieu de la saison, ils ont fait la STR 3B. Et là, à ce moment-là, qui a été conçu plus pour Vettel. Et à ce moment-là, c'était formidable. Donc, bon, moi, je pense que Lotus, il faut pas rester très longtemps dedans. Pour moi, ça va être une équipe qui va exploser l'année prochaine. Et avec Maldonado ou avec Grosjean, ce sera pareil. Hein. Je pense qu'ils sont tellement, ils ont besoin de vraiment beaucoup d'argent pour écluser tout ce qu'ils ont dépensé ces trois dernières années.
Oui, enfin, de toute façon, sur Grosjean, je pense que s'il fait une saison 2014 du même acabit que celle de 2013, peu importe le matériel qu'il a à sa disposition, je pense que s'il se met sur le marché des transferts, il trouvera des gens à qui parler dans d'autres écuries, parce que sa cote de popularité est quand même
très remontée
depuis...
Alors, on est vraiment en avance, dernier, mais je sais pas où il pourrait aller, hein, parce que McLaren, ça va être bouché.
Bah,
on ne sait pas ce qui va se passer dans 12 mois.
On ne sait pas, hein.
Button, il va signer avec Honda. Enfin, s'il a été renouvelé, c'est pour faire une année avec Honda.
Non, mais même sous 12 à même 24 mois, on peut pas savoir.
Non, c'est vrai, mais Ferrari, ce sera bouché. Lotus, bah non.
Ferrari, tu sais pas. Hein, Raikkonen peut très bien décider de claquer la porte. Hein.
C'est vrai. Alonso peut se barrer.
Alonso peut se barrer.
Justement pour aller chez McLaren.
Ricciardo, s'il se plante l'an prochain, qui sait que peut-être qu'il fera une Perez et ne rester qu'une année.
Pour moi, c'est sûr.
Il peut se passer beaucoup de choses en 12 mois.
C'est ça, on aurait pas pu penser que le marché des transferts de cette saison serait aussi animé que ce qu'il l'est finalement. Il y a des choses encore aujourd'hui, tout le plateau n'est pas complet. Donc,
oui.
Et c'est que des chaises musicales, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui arrive. Hein.
Il y en a deux.
Il y a beaucoup plus de chaises musicales que de gens qui arrivent. Hein.
Enfin, deux petits nouveaux, c'est quand même pas forcément dégueulasse non plus.
Non, c'est bien, mais c'est. Je veux dire.
Surtout qu'ils arrivent dans des voitures, des écuries qui sont quand même pas trop. Ouais, c'est quoi, Forcinia. Excusez-moi, Toro Rosso. C'est pas la meilleure écurie, mais enfin, je pense que pour l'an prochain, ils ont quand même un petit potentiel. Mm. McLaren.
Il y a Sauber aussi, avec. Quoi qu'il en soit,
c'est pas encore.
C'est Rossi qui doute, hein, parce qu'il a pas réussi à avoir sa super licence.
Voilà, c'est.
Ah, il l'a pas eu.
Il a pas payé
la distance.
Il a pas payé sa super licence.
Voilà.
Ouais, c'est ça, en fait. Il l'a pas encore payé.
Voilà, il tient pas la distance, Sergei. Mm.
Allez, on va passer à la deuxième place. Il a marqué 1924 points. Il roule avec un moteur Renault. Ouais, elle était pas dure, celle-là.
Il a, mais... il a une visière fumée, non?
Je sais plus, parce que je suis un plus des visières. Mais il roule et il a de l'argent, parce que lui, il roule dans une écurie qui a beaucoup d'argent. C'est Sébastien Vettel.
Oh,
et ben... Et oui. Vettel, alors, que j'ai mis premier, que comme Jennifer, comme Jackie, Ben, toi, par contre, tu l'as mis deuxième.
Ouais, j'ai mis deuxième parce que... Parce qu'il faut pas qu'il soit premier tout le temps, merde, quoi. Non, mais sincèrement, sur mais
je pense que première... beaucoup de gens se sont dit la même chose cette semaine.
Non, mais ma première et ma deuxième place étaient quasiment ex aequo, mais moi, j'ai favorisé mon premier choix parce que... Enfin, Vettel a eu une course relativement tranquille,
ouais.
Même si l'écart n'est pas aussi impressionnant qu'à Abu Dhabi, il y a... On n'a jamais excédé les 10 secondes, je pense. On termine avec 6 secondes 5, 6 secondes 6. Voilà, il part en pole, il fait un bon départ, il est devant et après il est plus inquiété, il gère très bien sa course. Voilà, c'est pas des on peut pas le mettre dans
il
top 10.
Il gère très bien le restart.
Le mettre. Ouais, mais on peut pas le mettre hors du top 3. À un moment donné, j'avais mis comme je l'ai dit, j'avais mis Bottas deuxième. Donc voilà, c'est une course, t'as presque envie de dire une course à la Vettel parce que il part premier, il gère sa course, il gère tous les événements effectivement, restart, safety car, arrêt au stand sans problème. Donc voilà, il fait des donuts à la fin. Il faudrait pas qu'il le fasse trop souvent, parce que ça va finir par m'énerver. Mais
Par contre, je crois que cette semaine encore, il n'a rien eu.
Non.
Mais c'est ils pas ont que rien ça va m'énerver, mais c'est que ça va devenir un peu trop banal. Quoi. J'ai bien aimé ça en Inde, parce
en même
que
temps,
ça fait tel titre. J'ai bien aimé ça à Abu Dhabi, parce que ça faisait un pied de nez à la FIA. Voilà.
En même temps, à part des donuts, il va pas faire des trucs carrés avec sa voiture.
Non, mais j'aime bien que ça garde un aspect un peu plus exceptionnel. J'ai pas envie que ça se banalise trop. Voilà. Après, comme il le dit dans son équipe, il les remercie. Merci les gars. Il faut. Je crois qu'on lui fait encore une remarque sur les donuts. Il fait, mais il faut pas qu'on oublie ces moments-là. Il faut qu'on s'en souvienne.
Oui.
Ça durera pas éternellement, quoi. Il a conscience de ça. Il sait que 2014, c'est un changement de règlement. Et puis, même dans l'histoire, on l'a vu, les dominations ne durent jamais. Donc il sait bien qu'à un moment donné, il faudra redescendre sur Terre et voilà. Donc le justificatif est beau. Maintenant, c'est bon, je pinaille là. Hein,
oui.
Il y a d'accord, mais il fait une belle course. Tu peux pas le.
Ouais, c'est comme à chaque fois avec Vettel. Qu'est-ce que tu veux dire sur ça?
Mais
t'as tout résumé.
Tu
n'as
pas manqué de superlatif. Hein, en Inde et à Abu Dhabi, t'as tout pris, quoi.
Même au niveau du scénar, c'est pareil, quoi. Le seul élément un peu perturbateur qu'il y a eu, c'est la safety car. Et encore, même là, il nous a fait le même coup que d'habitude. Je ralentis comme un.
Ah non, il a pas fait. Il a essayé de faire le même coup que d'habitude. Par contre, le deuxième ne s'est pas laissé faire.
Oui, voilà.
Il s'est mis à ses côtés et du coup, il pouvait plus faire comme d'habitude.
Il a quand même bien ralenti, hein. Enfin, comme d'habitude, quoi.
Ouais, là, comme d'habitude, mais ça c'est.
C'est surtout Grosjean qui a eu le coup pour ne pas trop.
C'est pas la première fois que Grosjean il se retrouve derrière Vettel justement lors d'une safety car aussi, donc.
Moi, je l'ai mis premier. On est visiblement pas tout à fait d'accord avec Ben, mais je l'ai mis premier parce que justement, je me suis posé la question comme toi de savoir si j'allais mettre Grosjean ou Vettel en premier. Et je me suis dit quand même, il a fait une course où il a juste fait que gérer. Alors ça fait un peu épicier, mais il avait un potentiel de performance énorme. Il pouvait vraiment mettre, il a ralenti quand il voulait ralentir. Et puis à la fin, il a voulu faire le meilleur temps. Il fait un meilleur temps, je crois que c'est 8 dixièmes devant Grosjean. Enfin, il a mis une mine, hein, vraiment. Il était tranquille, il gérait la course. Et je pouvais pas lui dire, voilà, un type qui gère aussi bien la course, à la Prost, hein, vraiment à la Prost. Hein,
sur la grille des meilleurs temps, il a le meilleur temps à 1.39, c'est le seul sous les 1.40, et Grosjean, il est deuxième à 589 millièmes.
Voilà.
Donc plus d'une demi-seconde. Hein.
Une demi-seconde, pardon.
Quand même. Hein.
Donc voilà, c'est quand même, il fait. Et alors moi, c'est ce que j'ai écouté dans sur les radios. À un moment, il avait, alors c'était dit, il avait un problème de code de 36 en erreur. Alors je sais pas ce que ça veut dire, mais à partir du tour 40, il a été en erreur avec le code 36. Je sais pas ce que c'est. A priori, sur le site internet, ça avait l'air d'être plutôt autour de la boîte. Et pourtant, ça le dérange pas pour faire des donuts, voilà. C'est il domine son sujet. En plus, visiblement, il a trouvé un truc pour la gestion des pneus. pour pouvoir maintenir la performance. Et voilà, donc je ne pouvais pas le mettre deuxième, parce que Grosjean, déjà je m'étais posé la question avec Weber, même si j'avais puni Weber, mais je m'étais posé la question avec Grosjean, est-ce qu'il est... Weber, on voyait bien qu'il était plus rapide, mais il avait sur la fin, Grosjean a bien géré, on en reparlera tout à l'heure, mais sur toutes les lignes droites, mais Vettel a fait une belle course, une très belle course, comme il en fait tout le temps, comme il va probablement en faire une la semaine prochaine,
dimanche.
Voilà, bon. Mais je peux comprendre tout à fait que les gens en ont marre aussi. Tout le monde en a marre, c'est pour ça qu'il se fait siffler. Enfin, comme se faisait siffler Schumacher également. Voilà.
Alors pour ma part, moi, c'est justement le contraire, de Ben ou des gens qui en ont marre de voir Vettel premier. Il y a 6 courses en arrière, effectivement, j'en avais marre de le voir tout en premier. Et là, je suis franchement impressionnée. J'ai jamais été une grande fan de Vettel, même si c'est un pilote qui est excellent. Le personnage me plaisait pas forcément, le pilote ne m'est pas forcément sympathique. Mais je trouve qu'il est vraiment... Il a pris en maturité, il fait moins merdeux, moins gamin, et moins sale gosse, en fait. Il a vraiment grandi et c'est vraiment, enfin c'est pour moi, je pense que c'est vraiment le meilleur pilote de Formule 1 en tout cas actuellement, même devant Alonso. Et oui, désolé Dino.
Mais il adore Vettel, tu déconnes.
Même devant Weber.
Ah oui, bah devant Weber. Non, Weber, c'est juste sa gueule qui est bien.
Mais sur Vettel, c'est pas tellement une lassitude parce que enfin le Grand Prix d'Abu Dhabi, t'étais obligé de le mettre premier parce qu'il fait une course de dingue. Il humilie tout le monde. Ici, il fait encore une belle course, mais on y reviendra. De toute façon, je pense qu'on sait tous maintenant qui est le premier. Hein. y a des choses dans la course qui font que j'ai opté pour mon numéro 1 plutôt que Vettel. Mais ça s'est joué à détail, hein, c'est pas...
Je me pose la question là, par rapport au Vettel d'il y a 2 ans, énorme saison de Vettel quand même il y a 2 ans, et j'ai envie de dire, lequel est le plus fort, le Vettel d'il y a 2 ans, ou le Vettel, alors pas toute la saison, mais bien évidemment depuis qu'il aligne des victoires?
Suite à ce qu'il a dit en fin de course, où il indique qu'il faut en profiter tant que c'est maintenant, tant que ça arrive, je trouve que ça c'est vraiment un gros signe de maturité. Je pense pas qu'il aurait pu le faire. Il était content, il criait sa joie et tout ça, mais là il était content et en plus il expliquait. Donc c'est vraiment... Dans Formula One, là, il y a 15 jours, il faisait les analogies avec Prost. Je pense effectivement qu'il y a une grosse analogie. C'est un pilote intellectuel, on va dire, qui réfléchit sur son travail. Et c'est vraiment intéressant, je pense, cette année avec lui, parce que là, il sait que l'année prochaine, enfin, il craint peut-être l'année prochaine que la Formule 1 soit une Formule 1 de moteur. Alors, je sais pas si ce qu'annonçait Julien Febvre avec les 100 chevaux de Mercedes en plus par rapport aux autres est bien réaliste, mais...
Ouais, chez Renault, je peux te dire que ça les fait sourire. Hein. Enfin, les échos que j'en ai eu de Renault à Francorchamps, 100 chevaux de plus, ça leur paraît totalement impossible.
Sans parler des moteurs, de toute façon, il y a plus d'inconnus, donc c'est normal que... Voilà, forcément, il y a des doutes par rapport à l'an prochain.
Je fais un aparté là-dessus, mais le moteur, les 100 chevaux ont été annoncé au moment où Mercedes voulait avoir des pneus plus solides à l'arrière. Donc c'est comment on peut montrer à Pirelli qu'il faut avoir des pneus plus solides. Il suffit de dire qu'on a 100 chevaux de plus et tant de couples en plus.
Oui, parce que tant voilà. De chevaux, puis, il laisse fuiter, ça paraît énorme. Hein,
il laisse fuiter et puis voilà. Bon, ça n'a pas marché. Pirelli, dans un premier temps, ne voulait pas faire des pneus différents de ceux de cette année. Et puis maintenant, ils veulent faire des pneus très très durs. Donc voilà.
Ouais, pardon.
C'est tout est variable, mais effectivement il y a une incertitude pour l'année prochaine, et donc on verra. Ça se trouve Red Bull sera aussi gêné par le moteur Renault, et Mercedes sera avantagé, ou Ferrari, enfin on ne sait pas, hein. Moi, je pense vraiment que l'année prochaine ce sera plus une F1 comme on en avait connu il y a 30 ans. Vous étiez pas né, mais Enfin, j'étais pas vieux non plus, mais où on avait des moteurs qui cassaient et ça va. Je pense qu'on va être, on va plutôt être dans ce délire-là l'année prochaine.
Oui, je pense qu'effectivement on va avoir des déjà les nouveaux moteurs, nouvelles technologies, enfin tout le monde fiabilise l'ensemble, plus longue durée de vie aussi. Donc forcément, je pense qu'effectivement on va revoir des moteurs exploser. Mais pour revenir sur la question de
le plus gros truc qui va, le plus gros truc qui va y avoir, c'est les 100 kilos d'essence. Pour moi, c'est le truc le plus important aujourd'hui, parce qu'il va y avoir des pannes d'essence, il va y avoir plein de choses, plus bah tout le KERS qui, enfin le HRS,
le HERS,
voilà, bon, voilà, le power unit va être vraiment important.
Mais donc pour revenir sur Vettel, je pense que le Vettel aujourd'hui est plus dangereux que le Vettel il y a 2 ans, parce que j'ai l'impression sincèrement qu'aujourd'hui Vettel est complètement libéré. On l'a vu après son 4e titre, il est même dans ses réactions en dehors de la voiture, on sent qu'il est il a un poids en moins, il a conscience de ce qu'il est en train de faire d'une certaine façon, il a conscience que 4 titres c'est voilà, et que finalement je crois que vraiment maintenant tout le reste, même s'il a peut-être déjà dit avant que tout ce qui va venir maintenant, ça va être que du bonus. Là, aujourd'hui, il a sa place dans... Comme on l'a dit, c'est quelqu'un qui, dans une précédente émission, qui a quand même une forte conscience de l'histoire de la Formule 1. Et je pense qu'il sait qu'aujourd'hui, il y a une belle place. Et que le reste, maintenant, c'est vraiment que du bonus. J'ai ce sentiment-là. Et que de ce fait-là, il a presque plus rien à prouver, quoi. Et que donc, aujourd'hui, il est peut-être plus dangereux pour les autres que qu'avant. Parce que, voilà, il est totalement libéré, Vettel, aujourd'hui.
Bah ça me fait penser à comme à Schumacher, hein, qui disait au bout d'un moment, bah oui, avec les titres qu'il a, il a plus rien à prouver, donc comme il a plus rien à prouver, c'est pas que du fun, mais il en est encore plus dangereux, quoi.
Oui, et puis même les records qui lui resteraient encore à battre, les 7 titres de Schum, plus personne aujourd'hui ne doute qu'il va les battre. Donc même à ce niveau-là, c'est-à-dire que même si lui se l'est fixé comme objectif, on va plus l'emmerder avec est-ce que vous allez y arriver. Pour plein de gens, au jour d'aujourd'hui, vu de la conjoncture, enfin pour peu que la Red Bull continue sur son niveau de performance actuel, et vu le nombre d'années qu'il a encore devant lui en Formule 1, c'est quasiment acquis pour plein de gens que les records de Schumacher, ben ça va être Vettel va aller les chercher, quoi. Donc c'est nouveau, c'est même plus une pression qu'il peut avoir de l'extérieur, où on lui demande tout le temps quand est-ce que vous. Non, c'est il va le faire. Donc non, il nous en a raison ou pas par la suite, mais quand on voit ce qu'il fait aujourd'hui, c'est ça paraît presque évident. Donc
Je reviens aussi il y a 2 ans. Est-ce que vous croyez que c'est pour répondre aussi à ta question, c'est il y a 2 ans, est-ce que vous croyez qu'il aurait doublé en Malaisie Weber?
Je pense pas parce que
moi je pense pas justement parce que aujourd'hui il sait qu'il est il est intégré dans l'équipe, il fait partie de l'équipe et que il a ce poids et ce pouvoir. Il a quand même, enfin là tu parles, on parlait des donuts, il a défié la FIA.
Oui.
Et il continue à le faire pour dire voilà, faut arrêter les conneries. Il y a des choses aussi encore qui sont interdites parce que les donuts sont pas interdites, hein, c'est les équipes qui demandent à ce que les pilotes ne le font pas pour des soucis de fiabilité, de boîte et de moteur. Mais il y a un autre truc qui est interdit, c'est d'emmener, vous vous souvenez, les drapeaux que Senna... Voilà, ça c'est interdit, par exemple. Mais pourquoi pas, je le sens pas allemand fier de sa patrie comme pouvait l'être Senna ou
même comme les Alonso par rapport à l'Espagne, hein.
Ouais, ou comme les Alonso par rapport à l'Espagne, mais il le serait, je verrais bien un drapeau allemand sortir un jour de sa combinaison, hein, parce qu'il a ce pouvoir là et la FIA pourrait rien dire.
Non, mais de toute façon, sous le drapeau, même Alonso n'a jamais eu qu'une réprimande, je pense, encore.
Ça s'est fait avec Alonso, il l'avait
ouais,
il
ouais,
fait.
Ouais, il l'a fait. Ben, je pense que l'an dernier à Valence, il l'avait fait, et cette année à Barcelone, il l'a refait.
Ah oui, c'est vrai. Oui, exact.
Il l'a refait à Barcelone cette année?
Je sais pas s'il avait le drapeau dans la voiture ou s'il l'a eu après
pas
en
sûr.
Sortant de.
Moi, j'irais plutôt après.
Après.
Mais je suis pas sûr.
Ah, je crois qu'après. Ouais, après, il me semble. Ouais. À Valence, oui, c'est
mais
sûr.
Mais il l'a déjà fait, Alonso. Mais sur la Malaisie, je pense que brièvement, il y a aussi le fait qu'il l'a dit d'ailleurs, il a jamais vraiment été aidé par Weber et que l'air de rien, le départ du Brésil 2012 est quand même une porte ouverte au Ferrari de la part de Weber. Et que ça, sincèrement, je pense que Vettel, hein, il a revu la course, il est pas con, il l'a bien noté aussi, et qu'il y a aussi un peu de ça, qu'il s'est dit, il n'y a pas de raison, il y a des consignes d'équipe en Malaisie, mais rien à foutre. Au Brésil, la logique aurait voulu que Weber me protège, il l'a pas fait, il signe, il peut aller se brosser, s'il veut la victoire, il va devoir venir la chercher. Interne, mais...
Oui.
Et nous pouvons passer au numéro 1, Shinji.
Oui, oh, c'est bien, tu fais les transitions pour moi.
Ouais, j'ai présenté une émission une fois, du coup...
Oui, donc vous en doutez, si ce n'est Vettel, c'est l'autre. Et l'autre, c'est Romain Grosjean, 2150 points.
C'est pareil qu'on est, non ? Ça aurait pu être un pilote Lotus, hein.
Pourtant, son opération s'est bien passée, Raikkonen. On pourrait lui donner des points pour ça.
Ouais, c'est bien passé. On sait pas où elle s'est passée, mais c'est bien passé.
Et c'est bien.
Bah, Strasbourg ou en Suisse, mais il y a eu deux informations contradictoires.
Alors, Jackie et moi, on l'a mis deuxième. Ben l'a mis premier. Et Jennifer, tu l'as mis troisième.
Jenny, faut que tu t'expliques.
Troisième seulement parce que justement, bah, non, il a fait une très très bonne course. Je devais le mettre deuxième. Mmh. Et.
Mais Weber. Et t'as vu Weber?
Et il y a eu la pitié de Weber, voilà.
Et Weber est plus beau.
Voilà.
Ah bah, y a pas photo là-dessus. Mais, non, oui, non, et puis je me suis dit, c'est les dernières courses de Weber. Allez, je lui mets un petit point supplémentaire. Enfin, une place supplémentaire, quoi. Non, non, sinon, il a fait une course extraordinaire. Enfin, extraordinaire. Il a fait une très, très bonne course, quoi. On voit tout de suite que Kimi Raikkonen n'est plus dans l'équipe. Ça, il y a...
Mais pour le coup, on a vraiment l'impression que c'était un vrai poids pour lui. Parce que,
bah,
pour
ouais,
le coup...
C'est vrai, ouais.
Vous avez vu l'interview qu'il a fait à Laurent Dupin, où il demande comment il était Raikkonen?
Oui, par rapport à comment il oui.
Il n'y a pas photo, au moins, il y en a un qui parle, quoi.
Voilà. Ça va se dire voilà, que oui, c'est... effectivement, Grosjean Raikkonen, ils n'avaient aucune relation. C'est pas compliqué.
Grosjean avait dit, alors je sais plus où est-ce que j'ai lu ça, qu'apparemment la seule fois où Raikkonen lui a réellement parlé, c'était juste pour lui souhaiter félicitations pour la naissance de son fils, apparemment.
Bah, il est poli.
C'était la plus grande phrase qu'il lui a faite.
Mais moi, si j'ai mis Grosjean premier par rapport à Vettel, ils ont tous les deux fait une très belle course. Moi, j'ai quand même souligné que Grosjean est agressif dès le départ. Ouais, il est agressif. Il est présent dès le départ. C'est quand même un gros progrès par rapport à l'an passé, hein. On va revenir éternellement dessus, mais voilà. Même là, il est bon aujourd'hui. Parce qu'il est du bon côté de la piste, il prend un bon départ, Weber veut se décaler, mais ouais. Pas de bol, Grosjean est déjà là. Et puis, toute la course, il a quand même Weber dans ses échappements, qui joue au yo-yo, qui revient, qui recule, qui revient. Donc c'est ça la différence qui est pour ça que j'ai mis Grosjean premier par rapport à Vettel, c'est que lui, il a eu une véritable menace constante derrière lui. Voilà, ça joue à pas grand-chose, j'aurais pu inverser et que le classement soit totalement justifié aussi. Mais voilà, c'est ce qui pour moi a fait la différence, c'est pourquoi j'ai mis Grosjean premier, parce que et puis c'est le quand même celui qui depuis 4-5 Grands Prix, je crois, marque le plus de points en dehors de Vettel. C'est quand même aussi la preuve que c'est l'homme en forme.
Je crois qu'il a marqué 70 points, non ?
75. Ouais, 75, je crois. Ouais.
Bon, après la comparaison avec Vettel reste évidemment impitoyable vu que lui gagne depuis 8 Grands Prix, mais ce que Grosjean fait en 5, l'autre le fait en 3. mais voilà, non, très belle course, belle qualif, bon départ, belle course, il résiste aux gens derrière.
Pour le coup, je suis très serein.
Oui,
ouais. Il est très serein, il est beaucoup mieux placé, comme tu dis, Ben, sur les départs, parce que c'est les départs en course auto, c'est d'abord une histoire de placement et d'empêcher les mouvements des autres pilotes qui sont à côté de soi. Et il est beaucoup mieux placé, il prend moins de risques, et pourtant c'est plus efficace.
Oui, des risques plus calculés, tout simplement. Ouais, il appréhende mieux les situations, je pense.
Oui, et puis dans les départs, il y a un côté psychologique. Est-ce que je peux y aller en fonction de si lui il doit prendre le risque, voilà, c'est il y a ça aussi. Weber aujourd'hui est la personne faible, on va dire, des trois, parce que lui il veut avoir une victoire. Absolument. Donc il va pas. Grosjean, il sait aussi que il peut pas se permettre de s'accrocher. Donc il peut prendre aussi le risque de s'approcher plus de Grosjean. Voilà. Alors que Grosjean, lui, il ne peut pas s'approcher trop de Vettel parce que Vettel, lui, voilà. C'est il y a toute cette histoire de cette notion psychologique des départs qui, je pense, est bien maîtrisée pour l'instant parce que ça fait quand même un certain nombre de course qu'il nous fait sans erreur.
Bah sur la course, hormis Monaco, j'ai pas souvenir d'un gros incident avec Grosjean.
Ouais.
Non.
En même temps, il termine quand même sa deuxième année, donc il a quand même en magazine.
Pas deuxième année aussi,
hein.
Ouais.
Oui,
ouais,
oui, bon, oui, voilà. Bon, 2009. Sans parler de 2009.
Ouais. Mais ouais, ouais, moi j'ai bien aimé. Et puis alors bon, effectivement, Weber a fait le yo-yo derrière lui, mais on avait bien vu sur les vues hélicoptères que le problème qu'avait Weber, c'était pas de se rapprocher, c'était les sorties de virage lent. Parce que ses pneus arrière avaient quelques tours de plus, et on voyait bien que même avec le KERS, même avec le DRS, les premiers mètres de chaque ligne droite, hein, Grosjean prenait de l'avance. Et du coup, il n'arrivait jamais à se rapprocher au bout de la ligne droite, au freinage, suffisamment près pour... il pouvait se décaler, mais ça suffisait pas pour pouvoir passer. Donc c'est ouais, je pense qu'il a très bien joué, et mine de rien, comment Vettel n'était pas si loin que ça. Alors moi je l'ai mis deuxième, comme j'ai dit tout à l'heure, Vettel je préférais le mettre premier, mais il devait se dire à chaque bout de ligne droite, est-ce qu'il va y avoir une petite fumée, un petit problème chez Vettel, ou bien alors je sais pas s'il a été mis au courant du pit stop qu'a fait Vettel. Donc moi ça me fait l'objet d'un drive-thru, mais j'aimerais bien qu'on me clarifie cette règle d'unsafe release. Parce que pour le coup, devant Max Chilton, Red Bull a libéré complètement Vettel.
Très très limite. Oui.
Ouais. Alors moi, il y a un truc que je comprends pas. Ils se mettent beaucoup à gagner du temps avec les petits systèmes, avec au niveau des pistolets. Puis après, ils mettent plus quelqu'un à la sucette. Ils mettent sur un bouton électronique. Mais il devrait y avoir un capteur qui soit derrière la voiture. S'il y a une voiture qui passe devant ce capteur-là au niveau de l'allée des stands, que le feu ne passe pas vert. C'est quand même pas compliqué à faire. Et là, pour moi, il y avait un unsafe release. Pour moi, c'était sûr, mais c'est Chilton. Alors que la semaine dernière, enfin il y a 15 jours à Abu Dhabi, Hülkenberg se fait louper sa course parce que il est libéré devant Pérez. Et Pérez, c'est plus gros qu'une Marussia. Alors moi, je pense qu'il y aurait peut-être pu avoir quelque chose. La FIA devrait statuer avec ces histoires d'électronique et de d'arrêt au stand qui sont très très lents, et Red Bull sur Weber a rabattu le record non officiel en moins de, enfin, 1,93 ou 1,95. Voilà, je pense que Vettel aurait pu avoir une pénalité, et là à ce moment-là Grosjean était en tête, hein. C'est ça que devait voir aussi Grosjean, et que ça devait être intéressant si Vettel a un incident. Comme il en a eu tout le temps depuis quelques grands prix, il a toujours une merde sur sa voiture. Il réussit à finir la course parce qu'il est un peu chanceux et qu'il gère correctement ses courses. Mais j'ai quand même l'impression que il y aurait pu avoir quelque chose là-dessus et que la FIA pourrait légiférer.
Grosjean qui au final fait son meilleur résultat de la saison parce que à chaque fois il était sur le podium mais il bloquait à la troisième place. Mmh.
C'est l'année dernière, je crois qu'il a fait la deuxième place.
Oui, il avait fait la deuxième place l'année dernière.
Ouais. Il en reste plus qu'une.
Oh, il accumule les podiums. Hein. C'est, non, très bonne fin de saison.
Très bonne fin de saison.
Ouais, même s'il gagne la course, je crois qu'il pourra pas grimper au championnat. Je crois.
Justement, on va passer au classement. Donc, bien évidemment, Vettel est à 332 points, Alonso à 249. Alors, on aurait pu se dire qu'Hamilton, forcément, avec Raikkonen qui n'est plus là, aller verrouiller facilement la troisième place du classement. Oui, mais sauf qu'il y a Grosjean, et Grosjean, il a 171 points.
Il est passé devant Hamilton ?
Non, c'est-à-dire qu'Hamilton est à 188, et d'accord, Grosjean à 171. Donc, Hamilton n'est pas encore troisième du classement, si tu veux. Et bon, il y a 18 points, mais vu le nombre de points que toutes les semaines ramène Grosjean, il a peut-être sa chance de peut-être finir troisième ou quatrième du classement du SAV. Au niveau des équipes, nous avons un champion. Ok, pas vraiment une surprise, vous en doutez non plus, hein. C'est Red Bull avec
Sauber
489 points. Il y a eu beaucoup de mouvements par contre dans le classement des équipes. Donc Ferrari est aussi assuré de la deuxième place avec 398. Lotus est à 348. Mercedes à 325. Sauber est à 81, donc devant McLaren. Et Williams a doublé Marussia, son point de Bottas. Dans l'autre classement, donc Vettel est premier, Alonso et c'est sûr et définitif deuxième du championnat. Hein. Et donc bah là encore, Hamilton est à 187, donc Raikkonen est quatrième à 183, on a Weber à 181 et Rosberg à 161. Donc lui non, il pourra pas être troisième. Troisième place se jouera entre Weber et Hamilton. Et au niveau des constructeurs, bon bah Red Bull est à 553, Mercedes à 348, Ferrari à 333, Lotus à 315. Donc là il y a quand même, enfin mathématiquement c'est encore possible entre les 2, 3 et 4e place, mais ça va être compliqué quand même. Je pense que
bah ça va faire quelque chose. Même si là à ce Grand Prix on avait bien l'impression qu'il était pas très motivé, mais au Brésil il va l'être.
Ah oui,
ça c'est sûr.
C'est sûr.
Oui, puis on lui souhaite, enfin ça au Brésil, ça laisse de belles images déjà. Oui.
Il se transfigure toujours chez lui. On va passer au drive-thru, hein, avant d'évoquer les faits marquants. Vous avez tous des drive-thru?
Moi, je les ai déjà donnés.
Ah, tu les as tous donnés?
Oui.
Finalement, d'accord. Je vais commencer. Il y en a deux, un très petit, mais ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu des drive-thru à la con. Mais où ils sont passés, les Stetson Pirelli?
Ah oui, c'était dommage.
Ah ouais.
L'an dernier, c'était marrant, c'était là, ils avaient leur Stetson. Alors, bon, il y avait les Pit Girls qui avaient des chapeaux.
Ouais, mais l'année dernière, je pense qu'elles les avaient aussi.
Ouais.
Donc ça compte pas.
Voilà. D'ailleurs, on a vu quand même Grosjean, hein, qui porte vachement bien le chapeau en conférence de presse.
Et Red Bull, il en avait aussi. Des chapeaux. Mais c'est vrai que j'étais un peu dessus de...
Ouais, c'était...
Je suis un peu parti du folklore, classique. Quoi,
c'était
sympa.
C'était sympa, voilà. Petit drive-thru, voilà. Et un autre, alors qui est pas un drive-thru méchant en soi, ça serait envers Eric Boullier par rapport à ce qu'il a dit sur Romain Grosjean. Parce que, attention, pour Eric Boullier, Romain Grosjean, c'est un des 3 ou 4 meilleurs pilotes du plateau. Et là, je dis, prudence, Eric. Ok, c'est vrai. D'abord, je lui souhaite qu'il puisse devenir un jour un des 3-4 meilleurs pilotes du plateau.
Alors, c'est qui les 3 autres?
Ah, il dit pas.
Ouais, mais nous, on peut le dire, nous. Qui on verrait dans les 3 autres?
3 autres?
Vettel, donc, t'as Alonso.
Vettel, Alonso.
Hamilton.
Ouais, Hamilton.
Ouais. Moi, Hamilton, j'ai du mal, hein. Ça dépend des...
Ça dépend comment il a, s'il est encore avec Nicole, s'il s'est remis avec elle.
Il y a des week-ends, il est à côté, quoi.
Après, il y a les opinions personnelles. Enfin, moi, mignon, je mets Raikkonen dedans, quoi. Enfin, voilà, c'est.
Mais sincèrement, je pense, moi, je mettrais aussi plus facilement Raikkonen
que Grosjean.
Mais Hamilton, tu le mets juste derrière. Mais pour moi, effectivement, dans les 3 premiers, ce serait Vettel, Alonso, Raikkonen. Pas dans l'ordre, hein, forcément, mais.
Mais voilà, je me dis que être quand même dans les 3-4 meilleurs du plateau, ça signifie des pilotes dont on se dit qu'ils peuvent gagner des titres, jouer le championnat, ce qui n'est quand même pas encore le cas pour Romain Grosjean. Romain Grosjean, il est à l'étape d'avant. Là pour l'instant, c'est un pilote qui cherche sa première victoire, qui en a sans doute les capacités, il le montre. C'est vrai que sur cette fin de saison, il est indéniablement le nombre de points qu'il apporte. Le deuxième meilleur pilote derrière Vettel, ça, c'est clair et net, mais tu peux pas dire qu'il est un des 3-4 meilleurs pilotes du plateau. Je trouve bien que ça le desserre un peu.
Il sonne à la porte comme il est là.
Voilà, ça le desserre un peu. Enfin, faudrait pas lui mettre une pression inutile, par rapport à ça, quoi. Là, aujourd'hui, son objectif à Grosjean, c'est même plus d'atteindre des podiums. En effet, c'est gagner une victoire, mais quand tu gagnes une victoire, t'es pas encore parmi les 3-4 meilleurs pilotes du plateau.
Oui, parce que quand tu vois que Maldonado a déjà fait une victoire...
Oui, c'est vrai.
Tu peux pas dire que c'est un des meilleurs
du plateau.
D'ailleurs, Maldonado, c'est un drive-thru du week-end. Non, mais ça peut paraître un drive-thru facile.
Il nous fait des super...
Parce qu'on a déjà parlé en long et en large plus tôt dans l'émission, mais moi, je trouve ça bien beau de râler sur l'équipe. De dire que on a saboté ma voiture, on a touché la pression des pneus ou quoi que ce soit, pour derrière nous faire ce qu'il fait, quoi. Arriver en course et faire un crash, je le savais. Sincèrement, je m'en doutais. Le voir partir de si loin, avec les réflexions qu'il avait fait la veille, j'étais quasiment sûr qu'il finissait pas la course.
Ah, tu comprends, il n'est pas habitué à rouler au milieu du paquet. D'habitude, il est dans les 2-3 premières lignes.
Mais non, mais même
c'est pour ça.
Tu refais tu repasses en revue la saison 2012, le nombre de fois que Williams a été lâché par Maldonado parce qu'il a fait une connerie, moi je la trouvais un peu facile. Bon, maintenant il a fait amende honorable, il s'est excusé. Des excuses effectivement plutôt convaincantes. Mais voilà, je trouve ça facile de critiquer son écurie quand derrière t'es pas non plus. Voilà.
Moi, je pense que c'est son attaché de presse qui s'est excusé, c'est pas lui.
Mais
il a dû bien se faire taper sur les doigts.
Parce que de nouveau, que tu râles sur ton équipe, C'est déçu, il avait de quoi, sincèrement, je peux comprendre, il est 18ème, son coéquipier se met dans le top 10, il sait, il n'a rien que son avenir est pas, il a peut-être le contrat, mais il n'a pas encore signé, en tout cas l'encre est pas, est loin d'être sec, donc tu peux comprendre que il y a de la frustration, il y a le contexte qui joue, qui fait que, bon voilà, il a un peu les nerfs le garçon, et il y a des limites à pas franchir, quoi. Mettre en doute une stratégie, mettre en doute des réglages, des choix de réglages, ou voilà. Ou critiquer simplement la voiture qui est pas bonne. Mais venir te dire qu'on a saboté ta voiture, que donc le résultat est mauvais volontairement, il y a quand même des limites à pas franchir sur le plan, je trouve, même éthique, et puis sur le plan sportif, parce que Williams n'a aucun intérêt sportivement à se tirer des balles dans le pied de façon si bête, quoi.
Ah bah oui, surtout qu'ils ont besoin de pain.
Donc voilà. Et puis parce que ça me ferait un peu chier de le voir chez Lotus l'an prochain. Je trouve qu'il y a des pilotes qui méritent plus un volant que lui et je vais me faire taper, hein, je mets des gens qui sont fans de Maldonado. Mais j'étais très content quand il a gagné quand il a gagné l'an dernier.
Il est pas très beau en plus.
Ouais bon enfin ça bon hein.
On s'en fout
bon,
ça.
Non parce que bon Jenny va te dire que les dents d'une Hülkenberg sont pas terribles.
Je dis ça parce que Jenny est là mais
moi j'aime beaucoup.
mais voilà, non, Maldonado c'est un pilote très rapide, mais c'est un pilote qui réfléchit. Il faudrait qu'il aille voir le psy de Grosjean, je pense. Je pense qu'elle fait du, elle ou il d'ailleurs, fait du bon boulot avec Grosjean. Il faudrait envoyer Maldonado chez le même. Il gère mieux les.
Et il va chez Lotus l'année prochaine.
Bah oui,
peut-être,
ils auront l'occasion
donc,
de discuter.
Peut-être que le psy pourra peut-être le rencontrer.
Ouais, signer Maldonado.
Non.
Il donne sa carte, voilà. C'est... Il parle plus que Raikkonen, donc ils vont parler. Ils vont parler, en fait. J'allais dire, ils vont plus parler. Non, ils vont parler. Et toi, Jennifer, tu viendras y frouver.
Oui. Jacques Villeneuve. Attends, c'est pas possible.
Ça fait longtemps.
Je te soutiens, ouais, Jenny, parce que je pourrais le dire aussi.
C'est, alors autant des fois il dit des choses très pertinentes, des choses qui peuvent être très intéressantes parce que c'est un ancien pilote de Formule 1 et que il nous apprend des choses ou il nous explique comment ça peut se passer dans le paddock ou ce genre de choses là, donc c'est très bien. Mais arrête avec Gutiérrez, on sait très bien qu'il peut pas le piffrer. Et pareil avec Ovalainen.
Ah mais il aime pas les Finlandais.
Taper dessus. Il aime pas les Finlandais, il aime pas les Mexicains alors. Hein, et...
Ouais en plus.
Non c'est chiant quand bah, depuis je sais pas ça fait au moins quoi 10 Grands Prix 11 Grands Prix où il arrête pas de dire que Gutiérrez coince les autres etc.
Oh dès le début de saison quasiment.
Oui
il
c'est vrai.
C'est vrai.
Ouais.
C'est vrai.
Mais on l'a compris au bout d'un moment. Il est pas obligé de le répéter 15 000 fois et c'est
et
15 fois dans le.
Il pense au nouveau téléspectateur.
En Grand Prix quoi.
La ménagère.
Ouais. Donc voilà, c'est contre lui.
L'effet marquant. Pour l'effet marquant du Grand Prix d'Abu Dhabi, vous avez été 100 à voter. Merci à vous tous. De même, merci à tous ceux qui ont voté pour le top 10. Avec 24 votes, est arrivé 3e Kimi, le cinglé du premier virage. 32 votes, l'extraterrestre Vettel. Et donc, premier avec 44 votes. Je crois que c'est encore une fois moi qui gagne. Je gagne très souvent. Je ne veux pas m'en vanter, mais je gagne souvent au fait marquant.
Là, tu vas avoir du mal, y a pas Raikkonen.
Eh non, j'ai dit Alonso apprend la règle des priorités routières avec Verne. Et j'ai quand même fini premier. Na.
C'est pas Dilio qui a sorti celle-là?
Non, ça, j'en souviens. Enfin, peut-être qu'il m'a aidé pour le thème priorité routière.
Il avait pas encore fait un truc à rallonge. Ah non, c'était le précédent. Ouais,
non,
c'était le précédent. Autant pour moi.
Donc moi, de toute façon, je choisirai en dernier.
Mais c'est une bien belle victoire, Shinji.
Je sais. Parce que tout ce qu'on fait est bien beau, tu le sais bien.
J'ai un ta gueule, moi, en plus.
Quand t'as un ta gueule, il n'y a jamais eu de ta gueule. Ça
il
n'y
a pas de ta gueule, les invités.
Alors, qui commence? Journée, hein, un beau. Hein.
Ouais, allez,
le fait marquant, c'est...
Faut dire, il nous a dit avant... Oui,
ah, tu l'as bien dit.
Donc, voilà, on te l'offre.
On voudrait pas te le piquer.
On te l'offre.
Ouais, bizarrement, ça parlait de Maldonado, tu vois.
Oh, étonnant.
Pastor Maldonado, ça vote sa course tout seul, comme un grand. Voilà, lui, tu peux mettre, ça vote sa course et celle de Sutil tout seul, comme un grand.
Non, mais t'es de l'école d'Ino, toi. Tu vas mettre des trucs de Kathleen, c'est ça?
Bah écoute, techniquement, je le remplace un peu, ce soir.
Pas le même accent.
La course est celle de qui déjà?
Sutil.
Sutil.
Bah, si tu veux pas faire court, t'es pas obligé de mettre Sutil.
Mais non, mais c'est toujours plus drôle. Ensuite, je vais être dans la merde, hein, parce que...
Moi, j'en ai un. Moi, c'était... Attends, comment j'ai formulé ça? C'est Sébastien Vettel, l'émotif, qui nous verse sa petite larme à la fin du Grand Prix, enfin sur le podium.
En fait, vous êtes
la petite larme de Vettel. Je suis une fille, donc voilà, ça m'a touchée. C'était mignon.
Mais quoi, Sébastien Vettel, l'émotif, ou la petite larme de Vettel,
ou les deux. Je sais pas.
Ah, la petite larme de Vettel, c'est bien.
Vous quelqu'un
Sébastien,
vous franchez, Sébastien
la petite
Vettel,
Vettel
l'émotif qui verse sa petite larme.
Voilà, pas mal.
Pas trop long. Et là, vous êtes un peu tous écoldinos, j'ai l'impression, quand même, ce soir.
Ouais, je crois que je vais faire pareil.
Tu peux rajouter sur le podium en tout cas de Grigor.
Sur le podium, ouais.
Vous voulez pas non plus que je rajoute, mais sans chapeau de Pirelli cette année, parce que, bon, ils ont pas fait comme l'an dernier, vous voulez que je rajoute ça aussi?
Bah écoute,
non, plaisir, si tu veux. Pas. Hein
ça, c'est pour bien voir ça comme un hommage à Dino, qui n'a pas pu nous être avec nous ce soir.
Oui, c'est vrai.
Alors moi, ça va être pour remplacer un Finlandais, on a eu le droit à un Allemand, un autre Allemand. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre
Alors attends,
je vais lister toutes les nationalités de ceux qui ont été possibles. Et,
alors un Allemand, un autre Allemand,
y a eu qui,
un Italien, ouais.
Un Italien.
En pointillé, mais on l'a eu.
Yes, ok, à qui ils ont pensé? Eux, c'est les plus sérieux, on va dire.
De toute façon, ils avaient une liste de 4, non?
Non, il y en avait 7.
Il y avait 7?
Oui, ouais. ils l'ont dit dans Formula 1. Enfin, oui, ouais. Il y en a certains. Tu crois franchement qu'ils allaient
recruter Maldonado? Il y avait Barrichello, un Brésilien.
Un Brésilien, oui.
Maldonado, ils ont dit aussi.
Bah, belge et un Français, avait... alors.
Non, ils n'ont pas dit d'Ambrosio, mais ils ont dit Valsecchi, ouais. Donc, Vénézuélien. Et à la... donc, pour finir, et à la fin, c'est un Finlandais qui gagne. Donc, pour remplacer un Finlandais, ils ont pensé... Enfin, je sais plus comment moi j'ai dit au début.
D'accord. Résumé. Pour remplacer un Finlandais, on a eu droit à un Allemand, un autre Allemand, un Italien, un Brésilien, un Vénézuélien, et à la fin, c'est un Finlandais qui gagne.
C'est bien, ça?
Pas mal.
Non, mais c'est à la fin, c'est moi qui gagne.
Mais non, c'est Shinji qui gagne.
Oh, tu parles.
Non, c'est moi.
Surtout cette semaine, quoi.
Alors, est-ce que tu vas nous faire une école d'ino?
Peut-être.
Une petite pause musicale pendant que tu réfléchis peut-être.
Non,
la dernière fois qu'il y a une pause musicale, j'ai perdu mon micro.
Je l'ai trouvé, mais je l'écris en fait.
On pensait à Gus Gus, là. Faut dire des trucs pour qu'il hésite à savoir si on le garde ou s'il coupe ou s'il coupe pas.
Il y a que Dino qui sait faire des blagues bien pourries, oui. Donc on peut pas les couper.
C'est lui le roi du four, avec moi, mais pour une autre raison. Non, je vais mettre Grosjean brise le plafond de verre de la troisième place, mais il en reste encore un au-dessus.
Oh, ça va pas payer ça.
Ah, mais c'est joliment dit.
C'est joli.
Je peux bien vous laisser une victoire au moins une fois cette saison.
Faudrait qu'on tienne les comptes.
Oui, c'est vrai, faudrait que je le fasse.
Oui, ça mériterait presque un SAV d'or cette affaire, tu vois.
Ah, ça pourrait
je
être.
Ça, je dis rien.
Donc, cette semaine, pour le fait marquant du Grand Prix des États-Unis, nous vous proposons Pastor Maldonado qui sabote sa course et celle de Sutil tout seul comme un grand. Sébastien Vettel, l'émotif qui verse sa petite larme. Pour remplacer un Finlandais, on a eu droit à un Allemand, un autre Allemand, un Italien, un Brésilien, un Vénézuélien. Et à la fin, c'est un Finlandais qui gagne. Ou bien, Grosjean brise le plafond de verre de la troisième place, mais il en reste encore une au-dessus.
C'est moi qui vais avoir le plus grand nombre de lignes, ça c'est sûr en tout cas.
Heureusement, je les écris pas sur Twitter, hein, parce que, bon, hein, là, on a bien dépassé les 140 caractères. Et on va passer au concours.
Le service après-vente de la F1 vous présente le concours Top Position. Franchement, si vous avez compris les règles, vous êtes déjà un champion.
Et donc, vous souvenez-vous de la question qui avait été posée au concours Top Position la dernière fois?
Maintenant,
ça
oui.
Un rapport avec des circuits. Hein?
Oui.
Qu'est-ce c'était... que je suis fort.
C'était en référence au fait que Vettel avait été sacré à Abu Dhabi, et donc on vous demandait sur quel circuit il y avait eu le plus souvent un titre décerné. Quel circuit avait été le plus souvent décisif pour le titre pilote? Est-ce que vous connaissez la réponse?
Ah ben moi oui.
Bah évidemment. On est tous des historiens. De... D'ailleurs, on pourrait tous remplacer Moncey en fait.
Et donc la réponse, c'est parce qu'il y avait le piège, c'est qu'il y avait deux grands prix dont il fallait répondre. Le Grand Prix d'Italie et lequel d'autre?
C'est le circuit de Suzuka.
Donc le Grand Prix du Japon.
Voilà, avec 11 sacres chacun.
11 sacres chacun.
Ah, et une bonne réponse d'Adelin.
Oui, parce qu'il faut dire, en fait, il n'y a eu qu'une seule bonne réponse. Fabrice nous a envoyé une réponse, mais qui n'était pas complète.
Voilà, lui, il a juste parlé du Grand Prix du Japon.
Voilà, et il y a aussi le Grand Prix d'Italie, quand même. On soit... Même si ces dernières années, c'est souvent au Brésil, mais le Brésil, c'est finalement assez récent, le fait qu'il soit en fin de championnat. Ça reste l'Italie et le Japon qui ont vu le plus souvent le sacre d'un pilote. Et donc, quelle était la question d'Adelin? Parce que Ben, en fait, il a un œil sur la boîte mail.
Alors, la question d'Adelin, c'est dans quel album Dino accompagne-t-il Michel Vaillant?
C'est dommage qu'il soit pas là, Dino, il aurait pu nous dire.
Voilà, donc on apprend des choses sur Dino voilà. Ce soir.
Il est vraiment fort, ce Dino.
Mais ça m'étonne pas qu'il fasse des trucs en cachette derrière nous.
Voilà. C'est pour ça qu'il vient plus.
Ah ouais, bah oui, il a plus
faut qu'il aide Michel Vaillant.
Eh ouais.
Voilà. C'est l'album hein, qui est demandé, hein, c'est ça?
Oui.
Ouais. C'est dans quel album Dino accompagne-t-il Michel Vaillant?
Pas un truc qu'on trouvera dans Stat F1, ça.
Ah non.
Bonne petite question.
Donc à noter que Adelin a gagné un t-shirt de Lewis Hamilton. Vous n'avez pas encore offert de cadeau pour de Lewis Hamilton, alors je sais pas pourquoi on l'a donné spécifiquement pour le Grand Prix des États-Unis, mais c'est vrai que sa première victoire c'était aux États-Unis. Il y a peut-être un symbole.
C'était au Canada, sa première victoire?
Ah oui,
c'est
au Canada.
Ah oui, j'inverse. Oui, c'est vrai que les États-Unis, c'était après le Canada.
C'est dans l'Amérique du Nord.
Oui.
Quand il avait gagné l'année dernière.
Ouais.
Voilà.
Ouais, c'est peut-être bien pour ça, ouais.
Donc, si vous arrivez à trouver dans quel album Dino a-t-il aidé Michel Vaillant?
Hein, accompagné.
Accompagné, ouais. C'est vrai qu'il n'a pas besoin d'aide, Michel Vaillant. Donc, si vous souhaitez répondre, il suffit d'envoyer un mail à concours@savf1.fr. Avec la réponse, et c'est tout, parce que c'est le dernier, donc il n'y a pas besoin d'envoyer d'autres questions, juste la réponse. Et donc comme c'est le
et
dernier...
Tu crois que c'est Dino qui va donner la réponse, finalement, la semaine prochaine?
Ah, vu qu'il se permet de poser des questions aux répondeurs, pourquoi pas?
Pourquoi pas? Et à noter que comme c'est le dernier Grand Prix, vous gagnerez alors une casquette, mais vous aurez le choix. Alors ça sera soit la casquette habituelle de Sébastien Vettel, ou bien, si vous souhaitez, la casquette édition spéciale champion du monde, qu'ils en éditent toujours une quand le pilote est titré.
4 étoiles dessus.
Voilà, 4 étoiles. Donc voilà, vous aurez le choix. On vous laisse le choix pour cette dernière émission. Évidemment, un cadeau que vous recevrez dans 2 ans. Hein. Évidemment, hein, c'est un peu comme ça que ça marche, malheureusement. La semaine prochaine, c'est un Grand Prix. Mais est-ce qu'on peut dire, Ben, que a priori, il y aura un mag après, encore après le Brésil? On ne sait pas vraiment, en fait.
Tout est possible.
Tu peux le dire que tu ne sais pas, parce que moi, je ne sais pas. Donc, il y a peu de chances que toi aussi, tu le saches.
Ben oui, hein, mais justement, d'où mon silence.
Je peux déjà dire qu'il y a déjà une question dans le répondeur. Eh oui.
Ah, ça c'est possible. Oui, non, je n'ai pas accès
ça, à... Non, mais ça je peux le dire. C'est pour dire qu'il y a déjà au moins une question dans le répondeur. Donc au moins rien que ça justifierait qu'on fasse une émission.
Bah ça dépend, c'est une question d'Adelin.
Non, c'est pas une question d'Adelin pour une fois en plus.
Ah.
Ouais, mais là tu vas le lancer, il va nous en mettre une, Adelin.
Mais donc, si vous souhaitez poser une question au répondeur, bah, vous avez le choix, soit par mail à l'adresse répondeur@savf1.fr ou bien via le module audio sur le site savf1.fr. La semaine prochaine, enfin, que dis-je la semaine prochaine? Ce dimanche, on est au Brésil, bien évidemment, on est obligé de faire des petits pronos. Vettel va-t-il faire sa 9e victoire de suite?
On est obligé de tous dire ouais, bah oui, Vettel.
Bah moi, je dirais pas Vettel, moi je dirais Alonso.
Bah on n'a qu'à faire des pronostics à l'envers et on essaye de deviner qui va terminer dernier.
Ah bah c'est facile.
Bah la dernière fois, ce qu'on n'avait pas dit qui terminerait deuxième.
Bah oui, moi aussi je dis Chilton. Hein.
Quoique Maldonado, c'est tentant et... aussi. Hein.
Non, je dis pour la victoire, je vais être fou, je vais dire Massa.
Oh, t'es vraiment fou.
Ah ouais,
quoi.
T'es fou.
Oui,
hein.
Mais bon, c'est pour pas dire Vettel. Voilà.
Ils annoncent de la pluie tout.
Ils annoncent de la pluie, donc tout est possible.
Et il va y avoir un problème de plus, c'est ce qu'on disait avec Shinji avant que l'émission commence. Il y a que 4 pneus intermédiaires et 3, c'est ça, 3 ou 2?
3, je crois.
3 en full
pluie.
En full pluie.
Bah, si c'est pas ça, c'est dans l'autre sens, mais c'est 4 et 3, voilà.
Et donc, ils vont devoir économiser les pneus. Alors, on va pas les voir beaucoup rouler.
Parce qu'on parle de pluie tout le week-end, hein. C'est pour ça.
Ouais, non, dans ce cas-là, tout effectivement est possible, bien que. Bah, forcément, tu peux pas dépasser Vettel et sa Red Bull, hein, même s'il pleut.
Ouais, mais moi, je vois bien une Ferrari parce que justement, ils ont un bon grip mécanique.
Ouais, mais alors là, je verrais plus Alonso que Massa.
Ouais, moi aussi, oui. Mais que Jenny dise Massa, c'est pas...
C'est moi aussi qui dis Massa.
Dit, moi, tu me, moi, tu me dis demain, CG, tu pardon. Signes pour que Massa gagne au Brésil. Moi, je signe. Hein. J'adorerais voir Massa partir chez Ferrari sur une victoire chez lui. Quoi.
C'est beau, c'est vrai.
Ouais, c'est une belle image. Non, je vais rester sur Vettel parce que je prends pas de risque, mais... Ouais, allez, s'il pleut, on va miser sur Grosjean. Il est bien depuis plusieurs grands prix, c'est l'homme fort derrière Vettel, donc s'il pleut, il y a peut-être une option.
Honnêtement, je pense que ce sera Vettel qui va gagner.
Mais oui, mais nous aussi.
Mais moi aussi, hein. Mais bon, mais ça peut être un peu plus original.
Je pense pas que ce soit pourra être Grosjean, parce que les Lotus sont jamais bien sous la pluie. Mais tiens, d'ailleurs, il pleut ici. Je pense à Alonso, ouais, qui pourrait être sider, en fait, intéressant.
Moi, j'aimerais bien voir Weber.
Sa dernière course, c'est vrai.
C'est sa dernière course, donc ce serait bien pour lui aussi.
Donc il faut aussi que Vettel abandonne.
Oui.
Aussi.
Non, mais ce qui va se passer, c'est que Vettel va sortir Weber au premier virage ou un truc comme ça. Et par contre, comme Weber, il a pas de bol, bah lui, il va se faire toucher.
Ouais. Non, Vettel, Vettel lui fera pas de cadeau à Weber, ça c'est sûr.
Ouais.
On arrive à la fin de l'émission. On vous rappelle comme d'habitude que le SAV de la F1, c'est sur iTunes, c'est sur la chaîne Alpha de Pod Radio, c'est sur Podcast France, c'est sur Facebook, c'est sur Twitter avec le compte officiel @leSAVF1, ainsi que nos différents comptes, hein, donc vous pouvez retrouver les liens sur la page d'accueil de SAVF1.fr. Même si d'ailleurs on n'a pas changé les noms, c'est toujours Chin Chin, Pino et tout ça. Laissons-les comme ça, c'est plus drôle, c'est plus lol, comme disent les jeunes.
Oh, l'autre qui fait le vieux.
Ouais. N'oubliez pas que l'AF1 sur internet, c'est sûr.
F1.com.
Parce que le SAV de l'AF1, c'est.
En couleur.
C'est la famille.
Dans deux parties.
Oui, j'allais dire.
En deux parties.
C'est ouais.
Cette semaine, c'est quasiment deux émissions en une que vous avez. Hein. C'est un truc exceptionnel. Hein. Merci, Jackie, de nous avoir accompagnés si longtemps, faut le dire, hein, parce que vous. Là, ça...
Merci de m'avoir supporté.
Ouais, parce que c'est un peu sa faute si on fait deux émissions aussi. Hein. Le mec qui sert ça.
Non, c'est à cause des innocents en fait. C'est les innocents qui m'a. Dès qu'il y a eu les innocents, c'était oui. Foutu.
Et vous le savez pas, parce que je sais pas si ça va rester dans la version finale, mais la pause musicale, c'était les innocents. Hommage à Bernie.
Très drôle d'ailleurs.
Merci à vous tous, encore une fois, hein, merci qui nous a accompagnés en live la veille, merci à Dino, merci à Gus Gus qui était là quand même. Hein. Ça aurait dû bien se passer cette émission, hein. Mais c'est bon, on y arrive, on est à la fin. Et c'est con parce que Dino n'est pas là, donc on n'a pas de proverbe.
Ah oui, c'est bête ça.
Ah oui.
Ah ouais.
C'est dommage.
Il n'y en a vraiment
oui.
Pas là.
Alors, ce que je vais faire, je vais taper sur internet, proverbe à la con.
Hein. Attends, je fais aussi.
Voilà. Et de toute façon, parce que de toute façon, les proverbes de Dino, on les comprend jamais. Hein.
Le dicton à la con, tiens.
Voilà.
Allez.
Et je vais vous lire le premier truc que je suis tombé sur le site La Punaise en tapant proverbe à la con. Comme ça, ça finira glorieusement cette émission déjà mythique du SAV. Hein. Donc déjà, bonne course, hein. Bon week-end, bonne course à tous. Ciao. Et méditez sur ces phrases hautement culturelles. Tu serais encore plus beau si t'étais pas moche.